changer d'examen, ce qui est de répondre à la question suivante. On m'a donné une heure pour faire ça. Je ne vais pas y arriver, c'est pas grave. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de cadrage autour de cette question. Alors, c'est toujours très difficile, quand on s'adresse à un public nombreux, de disserter autour de ce genre de choses, parce qu'il y a des notions absolument essentielles qu'on a envie de rappeler et on va barber tous les gens qui les connaissent déjà. Si on passe directement aux conséquences qu'on en tire, on perd les gens qu'on a eu l'occasion de regarder. Donc, je présente des excuses par avance à tous les gens qui seront dans l'une ou l'autre des catégories en fonction de ce que je vais raconter. Je vais commencer par parler des étudiants qui sont dans cette salle, probablement une partie d'entre eux, en rappelant juste de quoi on va parler, parce que je vais vous parler d'énergie, évidemment, carbonée, et en leur rappelant leur vieux, ou plus exactement jeunes, souvenirs de cours, ils sont plus vieux pour un certain nombre de gens dans cette salle, qui est tout simplement, encore une fois, de rappeler de quoi on parle quand on parle d'énergie. Quand vous faites un débat grand public sur les questions d'énergie, en général, ce qui arrive tout de suite, c'est combien ça me coûte sur ma facture. Donc, énergie égale la facture que je reçois. Donc c'est, bon, il y a peut-être des kilowattheures là-dessus, mais enfin, il y a surtout des euros. Économie d'énergie égale, on va m'expliquer comment je dois économiser quelque chose en éteignant les lumières, etc. Alors, en fait, l'énergie, c'est beaucoup plus que ça. L'énergie, c'est par définition, vous le savez, pour une bonne partie d'entre vous, en physique, la marque du changement. Hein, avec l'énergie, c'est une grandeur qui intervient quand le monde qui nous entoure change d'état. Alors, on va le constater dans un certain nombre d'actions de la vie quotidienne. Quand, par exemple, vous changez la température de quelque chose, il s'agit d'une pièce ou d'un morceau de métal, vous allez avoir besoin d'énergie, vous allez restituer de l'énergie, mais de l'énergie va entrer en jeu. Quand on fait boum-boum en appuyant sur un accélérateur, de l'énergie entre en jeu. Donc, dès que vous changez la vitesse d'un objet, de l'énergie entre en jeu. Quand vous changez une forme, de l'énergie entre en jeu. Quand vous changez une composition chimique, de l'énergie entre en jeu. Du reste, c'est celle-là qui, historiquement, a été la première à disposition des hommes, c'est notre alimentation. Notre alimentation sert à mouvoir nos muscles et à raconter des choses inutiles. Quand vous avez un corps qui se déplace dans un champ avec lequel il interagit, vous avez également de l'énergie qui entre en jeu. Ça peut être de l'énergie gravitationnelle, de l'énergie électrique, magnétique, etc. Quand vous avez une composition atomique qui change, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Alors, soit dit en passant, on parlera peut-être tout à l'heure, il est amusant de noter que la quasi-totalité des énergies renouvelables sur Terre sont une conséquence plus ou moins éloignée de la radioactivité. Enfin, ça c'est celle qui nous intéresse particulièrement pour le 1er juillet et le 31 août, dès que vous avez interaction entre de la matière et du rayonnement, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Alors ça nous intéresse entre le 1er juillet et le 31 août, pas que. Chaque fois que vous mettez quelque chose dans un micro-ondes, vous avez également affaire à cette interaction-là. Donc, d'une manière générale, l'énergie, c'est l'unité de compte qui va être utilisée par le physicien pour caractériser la transformation du monde, là où, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, l'économiste verra la valeur ajoutée. Mais les uns vont avoir envie de compter en euros, ce que le physicien pourra lui compter en kilowattheure. Vous vous rappelez qu'en ce qui concerne l'énergie, il y a un principe de l'emmerdement maximum qui s'appelle la non-création de l'énergie dans un système clos, pour la loi de la thermodynamique. Ça signifie quoi? Ça signifie que les hommes, qui peuvent représenter un système clos, ne peuvent rien faire d'autre que d'utiliser à leur profit une énergie qui existe déjà dans l'environnement. Tout ce que les hommes ont le droit de faire, c'est d'extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà, grâce aux bons soins de mère nature, et de s'en servir pour faire des tas de choses utiles, comme des machines à café et des voitures, et des tas de choses plus inutiles, comme par exemple des téléphones portables. Mais dans tous les cas de figure, tout ce que les hommes savent faire, c'est prendre dans l'environnement une énergie qui existe déjà et l'utiliser à leur profit. Alors, si je schématise, vous avez par exemple le système humain, ou un sous-ensemble du système humain, par exemple une usine, par exemple un bâtiment, par exemple, etc. Il va en sortir des choses qui nous intéressent, des services, des productions, etc. Il doit impérativement rentrer dans ce système l'énergie qui correspond à la transformation qui va permettre de sortir ce qui nous a intéressé. Tout à fait obligatoire. Si vous prenez l'humanité dans son ensemble, une des conséquences de cette affaire, c'est qu'on ne peut que extraire de l'environnement une énergie pour laquelle l'énergie extraite représente plus, pardon, que l'énergie d'extraction. Dit autrement, si on s'amuse à essayer d'exploiter à notre profit l'énergie du rayonnement du vide, qui existe et qui est absolument considérable en tant que demandeur, eh bien on n'y arrivera pas. Parce que pour exploiter cette énergie, il faut investir plus de kilowattheures au départ, on en retire à l'arrivée. Donc ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas une affaire de coût, là, c'est une affaire de barrière physique. Donc Donc il y a une première notion intéressante qu'il faut garder en mémoire, c'est que si vous avez besoin d'investir plus de 1 pour extraire 1, votre système ne peut pas marcher. La deuxième conséquence qu'on va en retirer, c'est le début des petites piques adressées à des amis journalistes, c'est que l'énergie propre n'existe pas. Vous savez, être propre, c'est rentrer dans les toilettes et ressortir en les laissant dans l'état dans lequel vous les avez trouvés, c'est-à-dire que vous avez touché à rien. Enfin, c'est comme si vous aviez touché à rien. Or, il se trouve que utiliser de l'énergie, c'est par définition avoir changé quelque chose. Utiliser de l'énergie, c'est avant et après, c'est pas pareil. Donc, l'énergie propre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui peut exister, c'est de l'énergie qui est utilisée de telle manière et avec des ordres de grandeur tels que les avantages surpassent les inconvénients. Ça, ça peut exister. Mais de l'énergie propre, ça n'existe pas. Alors, l'énergie simple, non plus, du reste. C'est toujours une affaire d'ordre de grandeur. Alors, je vais vous prendre un parallèle que j'aime beaucoup, qui est celui du sucre. Si vous mangez 2 grammes de sucre par semaine, le sucre est totalement inoffensif, c'est même assez agréable le jour où vous croquez dans un carré de chocolat. Si vous en mangez 10 kilos par jour, c'est un poisson violent. Donc, c'est exactement pareil en matière d'énergie. Il n'y a pas d'énergie propre, il n'y a pas d'énergie sale, c'est la dose qui fait le poison. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons la croissance sur Medef et un certain nombre d'autres personnes depuis un siècle et demi. Et je vais vous l'expliquer en comparant l'énergie que vous êtes capable de restituer pour le meilleur sportif de tous les jeunes qui sont dans cette salle et l'énergie qui est aujourd'hui fournie par les machines que nous utilisons. Alors je vais prendre le meilleur sportif qu'il y a dans cette salle, je ne sais pas où il est, enfin on se reconnaîtra, on pourra confirmer mes dires, et je vais lui demander de monter sur le Mont Blanc en partant de Chamonix, tout ça, je le souhaiterais. Alors si mon sportif fait 65 kg, il aura, en faisant cet effort, restitué de l'or d'un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. D'accord ? Donc je prends quelqu'un qui pèse 65 kg, un peu moins si c'est Mont-Blanc, parce que ça fait 3800 mètres en partant de Chamonix. Je lui demande de monter, et à l'arrivée, 0,5 kWh d'énergie mécanique. Si je devais, dans les usines, remplacer les machines que nous avons par des gens qui pédalent comme des forcenés, ce que vous avez dans le soleil d'ailleurs pour ceux qui nous suivent, eh bien, mon pédaleur forcené, à la fin de la journée, il me restituerait maximum 0,5 kWh d'énergie mécanique. Si j'utilise non plus ses jambes mais ses bras, qui, comme vous l'aurez remarqué, sont en général un peu plus petits, en termes de muscles, eh bien, sauf chez M. Schwarzenegger, eh bien, à la fin de la journée, j'ai en gros 10 fois moins d'énergie mécanique à ma disposition. Maintenant, je vais imaginer que j'ai affaire à quelqu'un d'extrêmement performant qui est capable de faire ça un jour sur deux, le meilleur sportif de la salle s'en connaîtra. Voilà, on fait sur le Mont Blanc, un jour sur deux, eh bien, il va être capable, cet individu, de me restituer 100 kWh d'énergie mécanique par an. Donc, retenez que si j'utilise des esclaves, pardon, c'est politiquement incorrect, donc si j'utilise des esclaves, ou des travailleurs rémunérés, peu importe, si je n'utilise que l'énergie de leur muscle, ce que je peux espérer maximum, c'est de l'ordre de 100 kWh par an. Si je suis un bon patron, et que je paye les employés au moins au salaire minimum, eh bien, le kilowattheure d'énergie mécanique issu d'un être humain payé au SMIC va me coûter 200 à 2000 euros. Je ne sais pas qui dans cette salle se rappelle du coût du kilowattheure sur sa facture de gaz ou sur sa facture d'électricité. Si vous ne vous rappelez pas, je peux vous donner la réponse, c'est un peu plus de 10 centimes. D'accord ? Bah, 200 à 2000 euros si vous utilisez un être humain. Je vais devenir politiquement très incorrect. Je ne paye plus personne, je prends un esclave. Mon esclave, si je veux le conserver en vie, il faudra que je le nourrisse, que je le loge, que je le défende contre les prédateurs et contre le froid. Bref, il va falloir que j'ai quelques débours minimum. Et bien, rien qu'avec 1 dollar ou 1 euro de coût par jour, et bien, je vais encore payer mon kilowattheure d'énergie mécanique entre quelques euros et quelques dizaines d'euros. Maintenant, je prends une machine qui consomme du pétrole. Dans un litre de pétrole, vous avez 10 kWh d'énergie thermique. Faites passer ça à 20 moteurs, vous en récupérez 2 à 4. Ça va donc vous coûter de l'or de quelques dizaines de centimes en coût marginal. C'est-à-dire que le coût marginal d'un kWh qui vient d'une machine à pétrole, à gaz, à charbon, électrique, ce que vous voulez, va vous coûter de l'or de 1000 à 10 000 fois moins cher que ce que vous avez avec du travail humain. Une fois que je vous ai donné ça, je vous ai expliqué pourquoi on a eu l'augmentation du pouvoir d'achat, pourquoi on a eu la mécanisation, pourquoi on a satisfait la revendication de la CGT, pourquoi on a eu la mondialisation, et pourquoi l'UFC peut choisir, peut respecter et avoir plus. Tout tient là-dedans. Absolument tout tient là-dedans. Ce qui s'est passé au cours des 19e et 20e siècles, c'est un peu de neurones et beaucoup d'énergie. Si vous gardez que les neurones et vous supprimez l'énergie, vous n'avez plus ce qui s'est passé au 19e et 20e siècle. Donc la totalité, je dis bien la totalité du développement industriel de l'humanité repose sur le fait qu'on a trouvé dans la nature, graphiquement, et j'insiste sur le graphiquement, j'y reviendrai après, des sources d'énergie qui ont permis d'en consommer de plus en plus et ce faisant de mettre en mouvement autour de nous des flux de plus en plus importants qui nous ont permis de bénéficier d'absolument tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Donc ce n'est pas les décisions politiques lumineuses et les ingénieurs géniaux qui ont fait l'essentiel de ce qui s'est passé, c'est l'abondance énergétique. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la traduction de cette abondance énergétique en termes économiques. Vous savez, quand vous faites radio-trottoir et que vous demandez aux gens si l'essence vaut plus cher qu'avant, ils vous disent tous oui. Si vous leur demandez si l'électricité vaut plus cher qu'avant, ils vous disent tous oui, si bien, etc. Tout vaut plus cher, etc. Alors, c'est tout à fait vrai, ça s'appelle même l'inflation. L'inflation fait que les prix en général augmentent. Sauf dans quelques cas, d'économie très particulier. Sauf que si vous ramenez ça au temps de travail, dit autrement, si vous regardez combien de temps il faut travailler pour se payer un kilowattheure d'énergie, vous allez avoir une vision complètement inverse. Alors vous avez ici le prix du pétrole, qui est le prix directeur de l'énergie par excellence depuis un peu plus d'un siècle. Donc l'histoire commence en 1960 sur ce graphique et s'arrête en 2011. Je ne vais pas prendre le pétrole en 2013, je peux le vendre très cher. Donc en 2011, et ce que vous voyez, c'est que le prix du pétrole, pendant à peu près un siècle, c'est-à-dire de 1880 à 1970, il est resté quasi constant aux alentours de 20 dollars le baril, 20 dollars constant. Dans le même temps, la fiche de paye du consommateur occidental, c'est l'image de droite, a été multipliée par à peu près 20, toujours en dollars constants, ce qui veut dire que le prix réel, le temps qu'il faut travailler pour se payer un kilowattheure de pétrole sur la période a été divisé par à peu près 20. Et quand vous savez que dans le même temps, les ingénieurs ont fait de gros progrès sur l'utilisation de ce kilowattheure de pétrole, en gros, on a gagné un facteur 2 à 5, ça dépend des applications, ça veut dire que le kilowattheure d'énergie mécanique que vous récupérez en sortie, vous allez le payer aujourd'hui 30 à 100 fois moins cher qu'on le payait il y a un siècle et demi. Et quand vous regardez comment a évolué le prix réel de n'importe quoi qui demande de l'énergie mécanique, fabriquer une table, fabriquer une chaise, fabriquer une chemise, fabriquer une paire de lunettes, etc., vous allez retrouver un facteur diviseur de cette forme sur ce que ça coûte de se l'acheter en termes réels. Dit autrement, pour acheter une table aujourd'hui ou acheter une chaise aujourd'hui, il faut travailler 50 à 100 fois moins longtemps que c'était le cas il y a un siècle et demi. C'est également vrai pour acheter un mètre carré de bois. Donc, l'énergie ne vaut pas, contrairement à ce qu'on pense, de moins en moins cher, de plus en plus cher, elle vaut, et de manière massive, de moins en moins cher. C'est même vrai sur une période plus récente. Alors vous avez ici trois courbes, un peu spaghetti, je suis désolé, qui vous représentent, pour les deux premières ici, et ça, et c'est l'échelle de gauche qui est la graduation qui y correspond, ce que dépensent les ménages, en euros constants, en énergie. Alors vous voyez que si je regarde ces courbes, moi ça monte. Donc effectivement, les ménages dépensent de plus en plus d'euros pour acheter des carburants et des énergies renouvelables. Et puis la courbe orange, elle vous donne ce que ça représente rapporté à ce qu'ils gagnent. Et là, vous voyez l'évolution exactement inverse. Depuis 1970, les ménages dépensent moins en proportion de ce qu'ils gagnent pour se payer de l'énergie. Alors 2011 a un peu inversé la tendance, mais vous voyez que la tendance lourde sur 30 ans, puisque je dis sur 40 ans, c'est que l'énergie vaut aujourd'hui moins cher qu'avant le premier choc pétrolier. Donc l'énergie ne vaut rien. L'idée qu'il faut regarder, c'est que compte tenu du fait que ça a fondé la totalité du développement industriel, l'énergie ne vaut strictement rien. Alors maintenant, je vais vous faire un petit cours d'économie physique. Parce que c'est important pour comprendre la suite, pour expliquer en quoi, comment, plus exactement, physiquement, l'énergie s'inscrit dans le système productif. Alors, je ne suis pas très bon en dessin, mais ça représente la planète Terre. Donc, elle est carrée. Non, c'est pas très grave. Et, comme vous le savez, elle est aux deux tiers ouverte aux océans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu. Alors, c'est quoi ça? Ça, en fait, c'est la planète au moment où les hommes arrivent sur Terre. Enfin, les hommes et les femmes arrivent sur Terre. Qu'est-ce qu'on trouve en arrivant sur Terre? On trouve le résultat de 15 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang, qui nous ont fourni une étoile. Des éléments lourds, tous les éléments du tableau de Mendeleïev, qui ont été forgés dans la première génération d'étoiles, celle qui a précédé le Soleil. On trouve un système climatique, on trouve des montagnes, on trouve des océans, on trouve le patrimoine génétique de 30 millions d'espèces, on trouve tous ces trucs-là, gratos. Personne n'a payé un centime dans cette salle pour que ce soit mis à des dispositions. D'accord ? Tout ça est gratuit. Le vent et le soleil sont gratuits, le pétrole, le gaz et le charbon aussi. Tout ça a été formé par la nature, encore une fois, gratuitement. Rien que plus. Donc voilà la planète Terre au moment où nous arrivons dessus. Alors vous savez, les ingénieurs ont de temps en temps des simplifications monstrueuses, donc je vais simplifier ce qu'on trouve dans notre environnement, et je vais mettre ça dans deux tiroirs, et peu seulement. À gauche, je vais mettre les stocks pour lesquels vous avez aujourd'hui un flux de renouvellement très significatif, et pourvu que vous ne préleviez pas au stock plus que ce qu'il est renouvelé, plus que son potentiel de renouvellement, le stock reste constant. Donc là-dedans, vous allez trouver l'herbe, les poissons, les arbres, enfin bon, bref, tout ce qui est dans le renouvelable. À droite, vous allez trouver tout ce pourquoi il n'y a pas de flux de renouvellement ou un flux de renouvellement insignifiant. Vous allez trouver là-dedans, par exemple, les minerais métalliques. Au moment où la Terre s'est formée, il y a un stock de minerais métalliques, il n'augmente pas au cours du temps. Vous allez trouver les roches. Vous allez trouver un système climatique en première approximation, c'est un peu long d'en faire un nouveau. Vous allez trouver les hydrocarbures, on verra après, il faut de l'ordre de 100 millions d'années pour les former. Donc à droite, ce qui ne se renouvelle pas, à gauche, ce qui se renouvelle. Et puis là-dessus, apparaissent les hommes. Que vont faire les hommes? C'est quoi la production humaine? C'est tout simplement prendre des ressources, les transformer avec notre travail et en faire autre chose. Rien d'autre dans cette salle, n'échappe à cette règle, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans cette salle, c'est des ressources naturelles transformées par votre activité. Si vous avez juste votre activité et pas les ressources, vous n'avez plus rien. Alors, avant de faire des choses essentielles comme des machines à café et des voitures, on a fait des choses plus futiles, mais le principe était toujours le même. Je prends des ressources, je les travaille et j'en fais autre chose. Alors, au début de l'activité humaine, ce qu'on pioche dans les stocks renouvelables est inférieur au potentiel de renouvellement des stocks, donc le stock reste à son niveau initial. Premier pêcheur, on va changer le niveau du stock de poisson. Par contre, dès que vous tapez dans le stock de silex baisse. Alors, le flux de prélèvement est tellement faible et le stock de silex tellement important que ça n'a jamais été un problème. Mais de fait, il baisse quand même. Et puis un jour, les hommes découvrent l'énergie. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie, c'est l'accélération de la transformation du monde. Donc, à nombre de bons hommes constants, vous pouvez extraire et transformer beaucoup plus de choses en provenance de l'environnement. Et puis ils vont en cours d'économie, les hommes, et ils découvrent le capital. Alors le capital, physiquement, c'est quoi? C'est de la production passée, non périssable, que vous mettez au service de la production future. C'est ça le capital. C'est des trucs qui ne se détruisent pas quand vous vous en servez. Hein. Une tomate, c'est parce que ce soit une partie d'un stock, c'est pas du capital. Quand vous en servez, c'est-à-dire que vous la mangez, vous la détruisez. Hein. Un immeuble, c'est du capital. Normalement, cet immeuble n'explosera pas quand vous en sortirez. On pourra s'en servir une nouvelle fois. Encore une fois, c'est la production passée qu'on peut mettre au service de la production future. Tout ça est merveilleux, les hommes croissent et multiplient, et ils prélèvent de plus en plus fortement dans l'environnement des ressources diverses et variées, pour faire des choses diverses et variées. Un jour, ils deviennent tellement nombreux et tellement productifs que non seulement ils ont fait baisser le stock de ressources non renouvelables, mais ils ont commencé à faire baisser le stock de ressources renouvelables, qui auparavant restait à un niveau constant. Dans cette activité débridée, il crée également des tas de sous-produits indésirables qu'on a coutume d'appeler la pollution. Donc en fait, la pollution, c'est toutes les substances qu'on introduit dans l'environnement et qui vont dégrader la qualité de ce qui s'y trouve en retour. Voilà à quoi ressemble le système productif des hommes. C'est assez simple. Je prends, je transforme et au passage, je fais des trucs qui vont globalement perturber ce qui se trouve encore dans l'environnement. Ça, c'est ce qui prétend à nos politiques, à nos économistes et à Mme Parnot. C'est la matérialisation économique du flux qui va de la gauche vers la droite. Alors, quelque chose sur lequel il faudra toujours oser contester vos profs quand vous l'entendrez, c'est quand vous entendez parler de richesse à propos du PIB. Le PIB n'est pas un indicateur de richesse, c'est un indicateur de flux, un indicateur de revenu. Si vous gagnez 1000 par an et que vous dépensez 2000 par an au casino, vous ne vous enrichissez pas. Sauf si un jour vous finissez par parquer le casino. Sinon, vous ne vous enrichissez pas. Alors, le PIB, c'est le revenu. Enfin, la richesse. La richesse, c'est un actif. Hein. C'est l'état de ce que vous possédez, moins l'état de vos dettes. Hein. Ça, c'est un indicateur de flux. Quand vous achetez un objet, quel qu'il soit, ce que vous allez le payer, ce n'est pas la ressource avec laquelle il a été fabriqué, c'est tous les revenus humains qui vont des ressources gratuites vers l'objet transformé. C'est ça que vous allez payer. Quand vous achetez une paire de lunettes, vous achetez toujours des lunettes. Vous achetez la sueur, des gens qui sont allés chercher les matières premières pour faire les montures, les matières premières pour faire les verres, qui ont transformé tout ça, qui ont fabriqué des camions à partir d'autres ressources gratuites pour transporter tout ça, etc. C'est ça que vous avez payé. Vous n'allez à aucun moment payer la ressource. Hein. Donc, le PIB, en première approximation, vous pouvez considérer que c'est la fiche de paye de l'humanité pour prendre des ressources gratuites et en faire autre chose. Alors, vous comprenez bien que, au plus vite il croit dans ce genre de système, et au plus vite le système se met à la gueule. C'est pas très compliqué à trouver comme conclusion, c'est juste une conséquence de la manière dont le système fonctionne et dont l'indicateur est construit. C'est exactement ce qu'avait trouvé M. Meadows, dont je vous parlerai dans 15 secondes, dans un rapport célèbre qui date d'une quarantaine d'années. Alors, si on avait eu des comptables, enfin, des macroéconomistes, qui avaient compris comment fonctionnait le système, ils n'auraient pas raisonné comme ça. Ils auraient dit, ben, quand je transforme quelque chose, je compte en plus ce que je crée, je compte en moins ce que je consomme, et le jour où la valeur de la dernière voiture que j'ai produite en consommant les derniers éléments de minerai de fer et de minerai d'hiver et de pétrole, le jour où ces éléments que j'ai consommés valent plus cher que la voiture que j'ai produite, j'arrête de faire des voitures et je suis heureux avec le parc de voitures déjà existant. Voilà ce qu'aurait donné une comptabilité de stock, celle que vous tenez normalement chez vous si vous êtes à peu près bien organisé. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça qu'on a raisonné. On a raisonné avec une comptabilité de flux. Et maintenant, c'est très difficile d'en sortir. Parce que ce qui permet au système, et notamment à la fraction publique du système de vivre, c'est les prélèvements qui sont assis sur ce flux. La quasi-totalité des prélèvements publics, des impôts, pardon, sont des impôts qui sont assis sur des composantes du PIB. Qu'il s'agisse de la TVA, des charges sociales, etc. Tout ça, c'est des sous-composantes du PIB. Donc maintenant, c'est très difficile d'arrêter le système avant qu'il ne nous amène aux ennuis. Alors les ennuis, les voici. C'est sur ce principe d'économie physique qu'un monsieur Meadows avait, il y a à peu près 40 ans, fait un petit modèle simple, pas très compliqué, dans lequel il essayait de comprendre où étaient les limites du système. Alors il avait modélisé population, nourriture, production industrielle, etc., dans un modèle dont la documentation est disponible. Et il fait partir sa simulation de 1900. Alors au moment où le rapport est publié, en 1972, c'est le fameux rapport dit du Club de Rome, qui en fait portait comme titre original The Limits to Growth, eh bien, au moment où est publié le rapport, la croissance est là, et bien là. Et du reste, il avait tout à fait prévu que ça continuerait derrière, puisque nous sommes en 2012, et dans les simulations qui étaient publiées en 1972, il n'était pas du tout question qu'en 2012, ça s'arrête. Par contre, ce qu'avait dit cet homme, c'est que, en première approximation, quel que soit l'optimisme qu'on puisse avoir sur le niveau initial de ressources et sur la performance technologique qu'on mettra au service de l'exploitation de ces ressources, le système livré à lui-même s'effondrera quelque part dans le courant du 21e siècle. Voilà, c'était ça la conclusion de Meadows, et c'était une conclusion assez robuste, je dois dire. Et je pense que l'un des grands défis aujourd'hui, c'est de faire en sorte, non pas qu'on ait la croissance perpétuelle, on ne l'aura jamais, mais que la stabilisation ou la descente du système ne nous empêche pas de faire des projets qui se passent dans les meilleures conditions possibles. Et pour tous les jeunes, et je vais y revenir longuement derrière, qui sont dans cette salle, il va falloir que vous organisiez votre vie, ce n'est pas nécessairement un arbre, il faut le savoir, il va falloir que vous organisiez votre vie dans un monde en gros sans croissance. Il va falloir trouver des raisons de faire des trucs marrants, parce que la vie est quand même trop courte pour que ce soit triste. Donc il va falloir faire des trucs marrants, mais juste ne pas se faire d'illusions sur le contexte dans lequel on devra faire le point. Alors, pour arriver à cette conclusion, je vais revenir à l'énergie. Voilà à quoi ressemble l'énergie consommée par terrien en moyenne depuis un siècle et demi. Donc ma courbe part de 1860, c'est gradué en kilowattheure, c'est vrai qu'on peut graduer toute énergie en kilowattheure. Donc en 1860, les hommes consomment essentiellement du bois et du charbon, et ils n'en consomment pas beaucoup, ils sont à un peu moins de 2000 kWh par personne et par an. Ça leur sert essentiellement à faire de la chaleur et un peu de métallurgie. Et puis, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et puis, vous voyez, arrive 1980, et en 1980, vous avez un changement de rythme sur l'évolution de cet approvisionnement énergétique. Alors, la première chose que vous voyez sur ce graphique, si on ne parle pas, c'est que la quantité de charbon consommée par personne a cru jusqu'au début du XXe siècle. Depuis, elle est à peu près constante, ce qui veut dire, sur le temps passant, deux choses. Un, le charbon n'est pas du tout une énergie du passé. Et deux, que la consommation mondiale de charbon augmente, puisque ça, c'est par personne, et la population augmente. Alors pourquoi est-ce que la consommation de charbon augmente? Tout simplement parce que le charbon est, et de loin, la première source d'énergie utilisée sur Terre pour faire de l'électricité. La France est de ce point de vue exceptionnelle, parce qu'on a un parc, on consomme extrêmement peu de charbon. C'est très rare. Dans la quasi-totalité des autres pays du monde, le charbon est un, voire le premier fournisseur des centrales électriques. 50% de l'électricité allemande est faite au charbon, 50% de l'électricité américaine est faite au charbon, 80% de mémoire de l'électricité australienne est faite au charbon, plus de 80% de l'électricité polonaise. Vous avez un nombre considérable de pays dans le monde où l'électricité est faite essentiellement au charbon. Sur le charbon est venu greffer le pétrole. Alors le pétrole, lui, il a un usage différent puisque l'essentiel du pétrole utilisé dans le monde sert à se déplacer. Alors se déplacer et faire tourner des centrales électriques, comme les transports utilisent très peu d'électricité, dans le train qui m'a amené ici, les transports n'utilisent quasiment pas de charbon, n'utilisent quasiment pas d'électricité, et inversement, tout le pétrole, enfin une bonne partie du pétrole, va dans les transports. Par-dessus, c'est greffé de gaz, par-dessus, etc. Alors, je vous le disais, ça a très fortement augmenté pendant un siècle et demi. En fait, vous avez deux phases sur ce graphique. La première va jusqu'en 1980, et vous voyez que la quantité d'énergie disponible par personne augmente en gros de 2,5% par an. Ça veut dire que l'aptitude à transformer le monde de chaque individu sur Terre, toutes choses égales par ailleurs, augmente de 2,5% par an. Ça, ça veut dire. L'aptitude à transformer le monde de chacun augmente de 2,5% par an. Après 1980, il s'est passé quelque chose de très remarquable, j'y reviendrai après, qui est, selon moi, à l'origine d'à peu près tous les désordres économiques qu'on a connus depuis cette époque, et encore une fois, je reviendrai derrière, qui est une rupture de pente sur l'approvisionnement énergétique par personne, liée au fait que, ça se voit pas bien sur ce graphique, ne faites pas confiance, liée au fait que la quantité de pétrole par personne a commencé à décroître après 1980. On consomme moins de pétrole par personne aujourd'hui que c'était le cas en 1980. Il n'empêche qu'avec la petite échelle comparative que je vous ai donnée tout à l'heure, aujourd'hui, la consommation énergétique moyenne d'un individu sur Terre, donc de 7 milliards d'individus sur Terre, équivaut à avoir mis à disposition de chaque terrien 200 organismes humains qui assurent tous les services dont nous avons pris l'habitude de profiter. Les machines à laver, c'est des esclaves énergétiques, les ascenseurs, c'est des esclaves énergétiques, les réseaux d'eau potable, c'est des esclaves énergétiques, le tram, c'est un esclave énergétique, le train, c'est un esclave énergétique, la mémoire, c'est un esclave énergétique, un avion, c'est un esclave énergétique, une voiture, c'est un esclave énergétique, un tracteur, c'est un esclave énergétique, tout ça, c'est des esclaves énergétiques. Tout ce que font aujourd'hui les hommes, c'est plus de travailler avec leur sueur, c'est d'utiliser des esclaves énergétiques qui sont des espèces d'exosquelettes surpuissants qui font ça à leur place avec une productivité considérablement supérieure. Ce qui a permis à la productivité du travail d'augmenter, c'est pas tellement que les muscles des hommes ont été multipliés par 100, sinon ça sera un peu bon, on est plus en meilleur des dames. Non, ce qui a permis l'augmentation de la productivité, c'est les machines. C'est les machines. Et la nourriture des machines s'appelle l'énergie. Fin du cours d'économie. Voilà l'économie qu'on vous a apprise, qu'on vous apprend probablement à l'école. Les deux principaux facteurs de production, c'est le capital et le travail. Donc, j'ai un système productif. Si mon pays est flagadouille, je détaxe le travail, je fais en sorte que les investissements soient plus faciles à opérer, et crac, mon PIB reprend des couleurs. Alors, oui, sauf que non. Quand vous regardez ce qui s'est passé ces dernières décennies, on a essayé ce genre de recette un certain nombre de fois, et le PIB, pour autant, n'est pas reparti comme avant. C'est tout simplement parce que cette lecture est incomplète. La bonne lecture du système économique, la voici. Vous avez besoin de ressources et de capacités de transformation. Et vous en sortez une production, et votre capital est une boucle interne du système, c'est la production passée mise au service de la production future. Dans la capacité de transformation, le travail, sauf le travail, dans le monde du physicien, c'est la transformation. Eh bien, mon muscle va de 1 et l'énergie vaut 200. Alors, une fois que vous acceptez l'idée que le système s'organise comme ça, vous comprenez que si vous avez une baisse en volume, là je ne parle pas du prix, on s'en fout. Si vous avez une baisse en volume de l'énergie disponible, vous aurez derrière une baisse en volume de la production. Et c'est très exactement ce qui nous arrive depuis maintenant 1980. Si vous avez en plus ou à côté une baisse des ressources disponibles, à ce moment, vous aurez aussi une baisse de la production. Je vais prendre un parallèle. Prenez l'activité de pêche. La valeur de la production, c'est la valeur des poissons pêchés. Pour ça, il faut du capital, un bateau, du travail, les marins, mais il vous faut aussi du gazole à mettre dans le bateau, à la rame, vous pêchez un peu moins, et il vous faut des poissons qui apparaissent par miracle dans l'océan. Si vous avez un bateau, des poissons et des marins, pas de gazole, ceux d'entre vous, même le meilleur sportif de la salle que j'ai cité tout à l'heure, pourra essayer de pousser avec ses petits bras musclés et le chalutier du Bibinec, il verra que ce n'est pas facile et qu'il y a peu de chance qu'on fasse grand-chose. Et si vous avez du gazole et pas de poisson, pas de pêche. Même si vous avez des tas de bateaux surperformants et des tas de marins aguerris. D'accord ? Donc, pour que vous ayez une production, certes, il faut des travailleurs compétents, bien formés, etc. Certes, il faut du capital et que les entrepreneurs ne font pas le temps dans le pays, mais il faut de l'énergie et il faut des ressources. Sinon, pas de production. Ceci est la conséquence de cela. La raison pour laquelle l'essentiel des gens occupent aujourd'hui un emploi de bureau vient de cette abondance énergétique. Vous avez ici la décomposition de la force de travail en France depuis 2 siècles. Donc c'est une série longue publiée par l'INSEE. Vous avez en haut les gens qui travaillent dans l'agriculture. Donc il y a 2 siècles, ils avaient tous fait agro. Enfin, les 2/3 avaient fait agro. Ici, vous avez les gens qui étaient dans l'industrie. Et ici, vous avez les gens des services. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 siècles, les services, c'était essentiellement des employés de maison et des commerçants. Hein. Les traders fous n'avaient pas encore été inventés. Et d'une manière générale, une bonne partie des activités de services n'existaient pas il y a 2 siècles. Hein. C'était essentiellement des commerçants et des employés de maison. Ici, vous avez une rupture de série, parce qu'en 1914, on a envoyé tout le monde se battre, et l'INSEE dit, à partir du moment où tout le monde porte les armes, moi je ne sais plus trop si là-dedans il y a des gens que je dois toujours appeler des commerçants, et des ouvriers, et des agriculteurs, donc c'est tous des militaires, c'est pas dans la série, donc j'arrête la série. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, on s'en sera. Donc il y a 2 siècles, l'essentiel de la force de travail est au champ. Arrivent les machines, alors d'abord les machines tractées par les chevaux, puis les machines tractées par les tracteurs, puis les intrants qui viennent d'autres machines qui ont permis de les fabriquer, etc. Résultat des courses, un agriculteur d'aujourd'hui est productif 200 fois en ordre de grandeur, comme un agriculteur il y a 200 fois. Comme on ne s'est pas mis à manger 200 fois plus, eh bien, les gens qui ne servaient plus à produire de la nourriture ont été sortis des champs et ils ont pu aller s'occuper d'autres ressources qui s'appellent des mines, des carrières, des usines et des magasins que je ne nommerai pas pour acheter des choses indispensables. Donc ces gens-là sont allés se mettre dans l'industrie pour fabriquer des produits et dans les services pour les échanger et les gérer. Et puis arrive le choc pétrolier. Le choc pétrolier correspond, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une rupture de pente sur l'approvisionnement énergétique. Du coup, vous plafonnez la production industrielle globale et quand vous la plafonnez, vous la rendez, vous arrêtez de la faire croître. Du coup, la croissance de la population active va aller s'investir dans les services, où là les gains de productivité sont beaucoup plus lents, parce que vous avez quand même une augmentation faible de la production industrielle, et vous voyez également apparaître un truc qui n'existait pas avant, pardon, qui s'appelle le chômage. Donc en fait, cette courbe est incomplète, on aurait dû la compléter avec une 4e catégorie de population active qui s'appelle du chômage. Alors maintenant, je vais essayer de théoriser tout ça avec quelque chose qui vous fera pas trop mal à la tête, puisqu'il s'agit d'une règle 3. Vous savez, les règles 3, c'est les pires ennemis du monde politique. La règle 3 commence par une règle 1. Je vais appeler GDP, excusez-moi, c'est parce que de temps en temps, j'ai affaire à des anglophones et que je suis cuirard. Je vais appeler GDP le PIB, c'est-à-dire Gross Domestic Product. Et je dis, dans ma grande sagesse, c'est égal à lui-même, et je pense que tout le monde dans cette salle sera d'accord avec cet élément-là. Je vais à droite, diviser et multiplier le PIB mondial par l'énergie consommée dans le monde. Alors là, je fais apparaître un premier terme, qui s'appelle le PIB sur énergie. Et ça, c'est la quantité de produits économiques que je peux créer avec une unité de transformation du monde. Hein? C'est la valeur de ce que je vais faire en transformant des ressources avec une unité de transformation. Je vous ai dit, l'énergie, c'est la transformation. Alors, en d'autres termes, ça s'appelle aussi l'efficacité énergétique de l'économie. Hein, l'efficacité énergétique de l'économie, c'est presque exactement ça. Mais cette efficacité énergétique de l'économie décide la quantité de transformation de ressources que je suis capable d'effectuer avec une unité d'énergie. Plus cet élément est important, et plus avec une même quantité d'énergie, je peux faire une. Et puis, je vais diviser les deux côtés par la population. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que le PIB par individu, en première approximation, c'est les revenus par individu, c'est donc le fiche de paye. Et la première chose qui intéresse quelqu'un, c'est sa fiche de paye. Le PIB global, c'est tout ce qui l'intéresse, il gagne. là, je fais des diagnostics. Je vais passer à quelque chose qui est l'approximation. Vous savez que quand, alors là, c'est pareil, normalement, la leçon pour vous est plus fraîche que pour moi, quand vous avez un produit dont les deux termes sont faiblement variables, eh bien, la variation du produit en première approximation est égale à la somme des variations. Vous pouvez faire, vous pouvez vérifier sur Excel, je ne vous raconte pas de bêtises. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est que la variation du PIB par personne, la fameuse croissance, c'est ça, hein, la variation du PIB par personne, en première approximation, est égale à la somme de la variation de l'énergie par personne et de l'efficacité énergétique de l'économie. Alors, l'énergie par personne, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Jusqu'à 1980, ça faisait plus de 2,5% par an. Après, c'est tombé immédiatement à 0,4. L'efficacité énergétique de l'économie progresse d'un peu moins de 1% par an depuis 1970. En fait, il y a eu trois époques sur ce graphique. La dernière décennie, la progression a été nulle. L'économie n'est pas plus efficace énergétiquement aujourd'hui qu'en 2000, en moyenne mondiale. Vous avez du reste un certain nombre de pays qui, aujourd'hui, sont plus mauvais sur ce plan qu'ils étaient en 2000. Et si on fait la somme des deux, eh bien, le PIB par personne, qui est ce sur quoi absolument toutes les démocraties occidentales fondent leurs espoirs, enfin, fondent, pardon, leurs recettes fiscales, et donc la croissance future de ce terme vous donne la croissance des recettes fiscales, eh bien, le PIB par personne, qui augmentait d'un peu plus de 3% par an avant 1980, est tombé à une croissance d'environ 1% par an, juste après 1980, et je vous montrerai après avec des statistiques de la Banque mondiale que je n'ai pas fait d'erreur dans cette petite addition. Dit autrement, la raison pour laquelle depuis 1980 on n'arrive pas à faire redémarrer les économies occidentales, elle est là. Là. D'accord ? Alors, il y a un mois, vendredi, M. Moscovici a expliqué qu'il suffisait de demander gentiment aux pays producteurs de pétrole de monter leur production, comme ça on aura plus d'énergie pour faire partir la croissance. Ça s'appelle la danse de la chimie. Ça a tout changé de marché. Il y a de très bonnes raisons à ce que ça évolue de cette manière. Ça ne va pas s'arrêter demain matin. Et j'y reviendrai après. Donc, on a connu un tournant en 1980. Et on va en connaître un deuxième dans pas très longtemps, que je vais vous montrer dans pas longtemps. Alors, comme en économie, on n'a pas l'habitude de regarder les volumes, mais on a l'habitude de regarder les prix, on a eu une illusion d'optique qui était qu'après les chocs pétroliers, tout allait repartir comme avant parce que les prix étaient redescendus au niveau d'avant. Vous le voyez bien là-dessus. Voilà le prix du pétrole que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, il est en dollars constants et là, il est en dollars courants. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des records inégalés. Mais vous voyez en dollars constants la courbe que je vous avais montrée. Et voici ce qu'on a appelé le contre-choc. Donc le contre-choc, c'est juste après le choc pétrolier, vous voyez, crac, les prix redescendent au niveau où ils étaient avant le choc. Tout le monde se dit, tout va bien, roule la poule, on part comme avant. Sauf que ce qu'on n'a pas vu, c'est que la physique avait fondamentalement changé. Vous avez ici le rythme d'augmentation de la consommation d'énergie par personne avant le choc pétrolier, et là vous l'avez après. Donc ça ne pouvait pas partir comme avant. Ça pouvait changer. Et de fait, c'est pas parti comme avant. Vous avez ici la variation du PIB par personne en moyenne mondiale depuis 1960. Ça, c'est la fin des Trente Glorieuses, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus de 3% par an. Et ça, c'est le début des Trente Piteuses, de l'or de 1,4% par an. Les 30 prochaines années seront vraisemblablement pas très loin de zéro et en dessous de zéro pour l'or. Ça va faire avec. La seule certitude qu'on a, c'est que si on bâtit des plans pour faire 100, c'est pire, mais si on bâtit des plans pour faire avec. En général, quand on se trompe de problème, c'est peu probable que la solution produise des effets escomptés. Alors, voilà comment ça marche pour l'Europe. Vous savez que dans la moyenne mondiale, vous avez par ailleurs un déplacement d'activité depuis les pays qui maturent vers les pays émergents. Qui veut dire que les pays dits matures, eux, ils voient les marges d'escalier de manière plus prononcée. Donc vous voyez, ça c'est le monde, ça c'est l'Europe, les marges d'escalier sont déjà plus prononcées, et ça c'est la France. Vous savez que les Français sont des ingénieurs remarquables, donc les marges sont à peu près régulières. Quand M. Sarkozy a été élu, on était là. Il n'a pas été dans les bonnes écoles d'ingénieurs, il n'a pas vu ce qui allait lui arriver, et quand M. Hollande a été élu, il a publié un document de campagne où il a parlé de 2,5% de croissance par an. Ça serait logique si ce n'était pas dramatique, il ne s'en rend pas plus. Voilà une autre vision de ce que je suis en train de vous raconter. Vous avez ici deux courbes qui vous donnent, en ce qui concerne la courbe verte, la variation annuelle de la quantité d'énergie consommée dans le monde, et en bleu, la variation annuelle du PIB mondial. Bon, vous voyez qu'on a quand même envie de penser que ça se répond. Voilà une autre manière de présenter la même information. Vous avez ici un nuage de points, et l'abscisse de ce graphique, c'est la consommation d'énergie mondiale, et l'ordonnée, c'est le PIB mondial. Voilà. Dis-moi combien d'énergie tu auras, je te dirai quel sera ton PIB. C'est simple. Je ne vois pas pourquoi on fait des grands modèles macroéconomiques couplés d'équilibre général, je ne sais pas quoi. Pas besoin. Pas besoin. Vous suiviez cette petite règle en 2007, et vous aviez la réponse sur ce qui allait se passer. Alors, vous avez ici une autre courbe qui vous montre, là cette fois-ci, une corrélation encore meilleure entre le PIB par personne et le pétrole produit dans le monde. Et il s'agit bien du pétrole produit, ce n'est pas du prix du pétrole. Hein. Donc vous voyez en rouge la variation de la production pétrolière dans le monde, et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne. Alors ce que vous voyez d'intéressant, c'est que sur les deux derniers épisodes où on a eu une baisse relative, exactement une moindre hausse de la production pétrolière, là on a eu une franche baisse, eh bien, c'est la baisse, c'est la contrainte sur le pétrole qui a précédé la contrainte sur le PIB. Dit autrement, on ne consomme pas moins de pétrole parce qu'il y a eu une crise, parce que les banquiers ont fait n'importe quoi. D'abord, on a eu moins de pétrole, donc le PIB a baissé, et donc on a eu une crise. Et comme par ailleurs les banquiers avaient fait n'importe quoi, la crise est encore plus violente que s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi. Sauf que si les banquiers n'avaient pas fait n'importe quoi, malheureusement pas tant rentrer dans les détails aujourd'hui, mais si les banquiers n'avaient pas fait n'importe quoi, la crise serait arrivée plus tôt. Dit autrement, si les banquiers n'avaient pas fait n'importe quoi, le PIB aurait commencé à baisser plus tôt et de manière plus douce. Hein, la vie à crédit a été une manière de s'acheter du temps. Avec évidemment, un peu comme chez Faust, une addition à la fin qui est plus sérieuse. Voilà l'autre présentation, exactement comme pour l'énergie, avec des nuages de points. Alors ce que vous voyez là, c'est toute la période qui va juste après, jusqu'en 85, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette barre en vert, 82, c'est ce point-là. Donc en fait, à partir de 83, vous êtes sur ce nuage de points-là, et de 65 à 82, vous êtes sur ce nuage de points-là. Alors, ce que vous voyez sur ce graphique, les statisticiens de la salle apprécieront, c'est que l'économie aujourd'hui n'est pas moins dépendante du pétrole qu'avant, elle l'utilise juste de manière un peu plus efficace. Mais elle n'en est pas du tout moins dépendante. Et la traduction que je peux donner en français, c'est que l'économie s'est pas mondialisée. Il n'existe plus aujourd'hui une seule organisation qui puisse se passer de transport, plus une. Donc la totalité de l'économie mondiale est asservie à l'existence d'un système de transport qui consomme un pétrole. Donc il ne faut pas croire qu'aujourd'hui l'économie soit devenue moins dépendante du pétrole. C'est pas parce que la part du camembert est devenue un peu plus petite qu'on en est moins dépendant. Vous savez, il fut une époque où l'agriculture représentait 40% de ce que dépensent les gens, aujourd'hui c'est 2%. Mais ce n'est pas moins indispensable de manger aujourd'hui, il y a deux siècles. Hein, si je vous dis l'agriculture c'est 2% du PIB, je m'en fous, je les supprime. Assez rapidement, les 98% restants vont disparaître. Hein. Donc cette lecture en part de camembert vous masque les effets d'asservissement. Méfiez-vous toujours des parts de camembert quand les parts sont pas indépendantes les unes des autres. Ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la vie à crédit. Vous avez ici. Aux États-Unis, le PIB en bleu, tout ça est normalisé, hein. La consommation d'énergie en rouge et l'endettement de tous les agents économiques en noir. Ben, vous voyez qu'au moment des chocs pétroliers, vous avez une inflexion sur la vitesse d'endettement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une réponse du système à la contrainte physique. Je vais vous donner juste un exemple. La meilleure économie dématérialisée qui soit, c'est les bulles spéculatives. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure économie dématérialisée qui soit? Si le prix d'un mètre carré double, vous n'avez pas augmenté les prix physiques. Par contre, au moment où ce mètre carré va être vendu, vous avez doublé l'emprunt nécessaire pour l'acheter. La production de crédit rentre dans le PIB. Au moment où vous l'achetez, vous avez doublé les commissions d'agence immobilière, ça rentre dans le PIB. Vous avez doublé ce qu'on appelle les droits de mutation, c'est-à-dire en fait des impôts locaux, qui vont alimenter des services publics, ça rentre dans le PIB. Donc vous avez doublé tout un tas de composantes du PIB en n'ayant pas touché au flux physique. Alors je veux dire, il y a encore mieux comme économie dématérialisée. Seul petit problème au passage, ça a augmenté la dette, puisque avant vous deviez emprunter 1, ensuite vous devriez emprunter 2. Donc les bulles spéculatives, tant qu'elles durent, c'est un excellent moyen d'augmenter le PIB de manière dématérialisée, jusqu'au jour où elles éclatent, et à ce moment, bah, vous prenez le contre-coup rapidement. C'est-à-dire que le PIB se casse la figure rapidement, quand la bulle se fait. Ce que je vous raconte donc depuis trois quarts d'heure, c'est que finalement, on peut voir le destin industriel des hommes comme quelque chose de très simple. On a sous terre des hydrocarbures gratuits qui brûlent, bonne idée. Grâce à ça, on a l'équateur et la chimie et tous les objets qui nous entourent, et grâce à ça, on a tous les acquis sociaux. La productivité a permis d'augmenter le temps libre. Si vous avez le temps, là en ce moment, de m'écouter dans cette salle, ce dont quelques-uns se passent sûrement, eh bien, c'est parce que vous n'avez pas eu besoin de transpirer toute la journée pour faire pousser des patates, sinon je vous assure que l'heure qu'il est, vous serez au fond de pli. Donc, la productivité mise à notre disposition par les machines ont permis de faire les retraites, les études longues, le travail de bureau, les vacances, les 35 heures, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie. Tout. Deux questions se posent évidemment. La première, combien de temps est-ce que je peux avoir un approvisionnement énergétique croissant? Et vous allez voir que ça se résume pour une large part à quelle vitesse est-ce que je peux extraire la vitesse croissante du hydrocarbure du sol. Et puis, j'ai un deuxième problème associé à ça, qui est que le CO2 a la bonne ou mauvaise idée, ça dépend des cas de figure, d'avoir des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Et donc, quand j'augmente la quantité de CO2 dans l'air, eh bien, j'augmente un truc qui s'appelle l'effet de serre. Et ça introduit une modification des grands équilibres énergétiques dans le système climatique, et donc ça fait dériver ce dernier vers un état différent. Alors on va traiter rapidement les deux questions. Je vais revenir à la première. Ici, vous avez donc à nouveau la consommation d'énergie des hommes, mais au lieu de la présenter comme tout à l'heure par personne, là je vous la présente de manière globale. Et puis tout ça, c'est des énergies fossiles. Un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que tout ce qui est excitant, les journalistes, vous savez, l'éolien, le photovoltaïque, etc. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il en faut peu pour exciter les journalistes. Non, j'en connais plein, et certains sont déjà très bien. C'est juste pour vous dire, faites attention, une page dans le journal ne signifie pas que le problème est à la... Et traité à sa juste mesure. C'est pas du tout ça les critères de choix. Enfin, du tout. Il peut y avoir des trucs absolument majeurs dont on ne parle jamais dans le journal, il peut y avoir des trucs dont on vous rabat les oreilles tous les jours, et en fait c'est un épiphénomène dans le destin des hommes. Donc ce que vous voyez ici, c'est que l'essentiel est fossile, je vous le représente là, l'essentiel est fossile, tout ça c'est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça les énergies fossiles? Parce que c'est fossile. L'Académie française a bien travaillé. Ces énergies se sont formées par pyrolyse du plancton ou par pyrolyse de fougère grâce à la tectonique des plaques pendant très très longtemps, 100 millions d'années, puis sur un tout petit feu. Vous avez ici l'âge moyen du pétrole et du gaz inventoriés sur Terre et extractibles de manière certaine en fonction de leur ancienneté. Donc ce que vous voyez, c'est que en gros, la moitié du pétrole et du gaz extractibles sur Terre ont été formés à la fin de l'ère secondaire, il y a à peu près 150 millions d'années, et un autre gros paquet a été formé au milieu de l'ère primaire, et là, on est plus près de 350 millions d'années. Donc le pétrole est tout à fait renouvelable, si vous êtes capable d'attendre 100 millions d'années. Aucun problème. Si vous n'êtes pas capable, ça l'air moins. Nous avons, en ce qui concerne les hydrocarbures, un stock de départ qui est donné une fois pour toutes à l'échelle des temps historiques, on va considérer que c'est vrai. Alors là, vous avez un petit théorème de maths, que je sais encore démontrer, qui dit que quand vous avez un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, on peut démontrer, c'est assez facile, c'est assez intuitif, qu'il n'est pas possible d'avoir en provenance de ce stock une extraction indéfiniment croissante. Je crois qu'on sera d'accord. Si vous avez un nombre donné de jetons de casino au début de la partie, vous ne pouvez pas avoir des vis indéfiniment croissantes sur le tapis de la roulette. Ça marche pas bien. Vous ne pouvez même pas avoir une extraction indéfiniment constante de ce stock au cours du temps, même ça n'est pas possible. Les maths permettent de démontrer qu'en pareil cas, ça tombe bien parce qu'il y a une place qui porte ce nom pas très loin d'ici, vous aurez droit à une cloche. Ce que vous avez sous la cloche, plus le stock extractif de départ. Donc le cumul de votre extraction, c'est au plus le stock extractif de départ. Et vous aurez un maximum absolu à cette courbe d'extraction que dans le jargon des pétroliers, on a appelé le pic. Et qui a toutes les chances, vu le degré de préparation que nous avons, de produire sur la même économie quelque chose qui ressemble à ça. C'est un moment où on va passer par le maximum absolu qui doit absolument exister sur l'extraction mondiale de pétrole, mais c'est aussi vrai pour tous les minerais. Vous aurez un pic à la production annuelle de minerais de cuivre, de minerais de fer, de minerais d'argent, de minerais d'argium, de minerais de vanadium, de minerais de chrome, etc. Je peux vous faire tout en relief. À chaque fois, vous aurez un pic. Chaque fois. Alors, prévoir les pics, comme l'explique cette légende, il y a un cas de figure dans lequel c'est très facile, c'est quand il est déjà passé. Vous avez ici deux pics, en fait. Donc, c'est le début d'une chaîne de montagne. Le premier pic vous donne des découvertes en volume de pétrole et de gaz récupérables depuis 1900. Ce que vous voyez, c'est que le maximum des découvertes annuelles de pétrole et de gaz récupérables, il s'est passé pas très loin de l'année de ma naissance, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais donc c'était il y a 40 à 50 ans que le maximum des découvertes annuelles de pétrole et de gaz récupérables a eu lieu. Donc comme aujourd'hui, on explique que la Guyane française va sauver la production mondiale de pétrole, c'est déconnaître les ordres de grandeur. Là, vous voyez, aux belles années, on trouvait de l'ordre de 400 à 500, alors c'est par période de 5 ans, 400 à 500 milliards de barils par période de 500, de 5 ans, pardon. Donc ça faisait de l'ordre de 80 par an. La Guyane, c'est 1. Alors, je peux vous dire que pour le pétrolier qui va aller faire des trous dedans, c'est 1 qui vaut cher. Mais c'est 1. Il va gagner beaucoup plus d'argent que tous les gens dans cette affaire réunis, mais c'est 1. Là, il y a des vrais 80 tous les gens. Donc, les découvertes qu'on fait aujourd'hui, il faut les ramener à la taille globale du stock extractif déjà inventorié, et vous rendrez compte qu'en règle générale, ce n'est pas grand-chose. Même les Brésiliens qui ont gagné des fortunes grâce au pétrole offshore qu'ils ont découvert près de chez eux, on parle de 10 à 20 milliards de barils. Encore une fois, c'était 80 tous les ans, au maximum des découvertes de pétrole et de gaz récupérables. Le deuxième pic que vous avez sur ce graphique, et là, en orange, c'est le violet de soleil, celui-là représente le nombre de champs découverts. Alors ce que vous voyez, c'est que pendant un moment, les volumes ont baissé, le nombre de champs a augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les champs découverts avaient une taille moyenne qui décroissait très rapidement. Alors il y a une raison physique à ça, encore de la physique, je suis désolé, mais je vais leur avancer, c'est que chercher des champs de pétrole et de gaz, c'est un peu comme faire une échographie. Vous savez, pour ce genre de vous qui ont eu droit, l'échographie, c'est plus facile de voir où il y a un bébé que de savoir si c'est un garçon ou une fille. Ben là, c'est exactement pareil. Comme vous cherchez les champs de pétrole et de gaz avec de la sismique, vous trouvez en premier ceux qui sont gros et près du sol. Plus ils sont gros et moins ils sont planqués, plus vous les trouvez vite. Avec le temps, ceux que vous allez encore trouver sont plus petits ou mieux planqués. Donc, ils sont plus chers à exploiter parce qu'ils sont plus compliqués. Et ça, c'est juste une raison physique. Ou encore un autre parallèle que je pourrais prendre, c'est les œufs de Pâques en jardin. Plus ils sont gros, moins ils sont planqués, plus vous les trouvez vite. Tout ça, c'est une majeure de temps. Donc les découvertes vont passer par un maximum, et la production va aussi passer par un maximum. De toute façon, ce maximum est imposé. Alors voilà à quoi pourrait ressembler la production mondiale d'hydrocarbures liquides. Quand je dis à quoi pourrait ressembler, vous voyez que ce graphique qui part il y a longtemps, qui part en 1870, il se termine dans longtemps, puisqu'il se termine en 2100. Donc on ne va pas chicaner à 10 ans près pour le maximum. Mais par contre, ce que vous voyez, c'est que comme on est là, si le maximum n'était pas l'année dernière, il sera dans 5 ans, et s'il n'est pas dans 5 ans, il sera dans 10, s'il n'est pas dans 10, il était il y a 15. Enfin, je plaisante, mais on est en gros pas loin du maximum. Alors, la première question qui vient à l'esprit de tout le monde en pareil cas, c'est combien ça va coûter. Je vous ai dit avant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le volume. Alors, je vais prendre un exemple très caricatural. Si demain matin, dans le même temps, je dis le litre d'essence à la pompe descend à 70 centimes, mais je ne vous donne le droit d'en acheter que le tiers de ce que vous achetez la veille, que je fous l'économie par terre. Vous avez un camion sur trois seulement qui peut avancer, je fous l'économie par terre. Donc ce n'est pas une question de prix, c'est une question de volume. Dans un marché infini à peu près ajusté, les deux se répondent. Dans un univers très contraint, ça ne se répondra plus du tout. Plus du tout. Quand vous entrez en particulier en épisode de rationnement, le prix, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est le volume. Donc ce qui va compter à l'avenir, ce n'est pas les prix, c'est les volumes. Woodhouse en rouge, ce qui a vraiment été le prix du pétrole depuis 1985. Et les courbes colorées horizontales sont toutes les prévisions à date, donc 2000, 2002, 2004, etc., qui ont été faites par l'Agence internationale de l'énergie sur le prix futur du pétrole.
La prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'il va vous prendre une heure de votre temps pour vous expliquer ce que sera le prix futur du pétrole, allez au restaurant à la place, ça sera plus agréable, et pas moins instructif.
Personne ne sait ce que va être le prix futur du pétrole, mais encore une fois, on joue, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les volumes. Alors les volumes, voilà ce qu'ils sont déjà pour l'Europe. Donc, je vous ai dit dans un pic mondial, et le pic mondial est pas très loin, je le projette là, ici, vous voyez, et on n'est pas très loin. Alors, l'Europe, ça a déjà commencé. Donc, en rose, vous avez la production de la mer du Nord. Manifestement, on n'a pas écouté du Moscovici ici, parce que la production décline depuis 2000. Et en vert, vous avez ce qui vient des importations. Alors, excusez-moi, là-dessus, j'ai fait une petite entorse à la géopolitique et rajouté la Norvège dans l'Europe. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est, et de loin, le plus gros producteur de pétrole de la région géographique d'Europe. Et par ailleurs, la probabilité qu'on fasse la guerre avec les Norvégiens ne paraît pas très élevée. Donc, je dis, allez, ça forme un tout géopolitique homogène et je regarde la production de cette zone-là. Donc, ce que vous voyez, c'est que la mer du Nord décline le plus de l'île, et elle décline vite, elle a perdu à peu près la moitié de la production depuis le maximum. Et à cause du plafonnement de la production pétrolière mondiale depuis 2005, les importations européennes se sont également mises à décliner depuis 2006. Donc aujourd'hui, nous avons un terme d'importation qui décline, un terme de production domestique qui décline. Donc la disponibilité totale en pétrole de l'Europe décline. Pour être très précis, elle a perdu 10%. Ça va continuer. Ça va continuer, quoi qu'on pense, l'automobiliste français et l'automobiliste allemand et l'automobiliste grand-breton et l'automobiliste espagnol. Ça va continuer. Donc la voiture à 2 litres au 100 de M. Hérault est une très bonne idée, mais pourquoi il a envie d'attendre 10 ans ? Tout de suite. Ensuite, voilà à quoi va ressembler, ou pourrait ressembler plus exactement, la production mondiale de gaz. Alors là, j'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans un long exposé sur le gaz, mais rappelez-vous que le gaz est une énergie beaucoup plus régionale que le pétrole. Le pétrole est une véritable énergie mondiale, je parle encore une fois à cause de la physique, parce que le pétrole est liquide aux conditions ordinaires de température et de pression. Et un liquide, il n'y a rien de plus facile à stocker et à transporter. Le gaz est gazeux, on va dire, aux conditions ordinaires de température et de pression. Et donc, à cause de ce fichu M. Mariotte, ça coûte considérablement plus cher de transporter du gaz que de transporter du pétrole, parce que c'est des systèmes beaucoup plus rigides. Il faut un tuyau. Le tuyau part obligatoirement du producteur et pas d'un autre, et il arrive obligatoirement au consommateur et chez personne d'autre. Alors qu'un bateau, vous le détournez en pleine mer, il y a des tas de gens basés dans des cantons suisses qui font ça en permanence, vous pouvez très bien, en cours de route, le faire arriver là où vous avez envie qu'il arrive. Le tuyau, c'est un peu compliqué de sortir de terre et de le replanter à côté. Ça coûte tellement cher de transporter du gaz qu'en Iran, les champs de gaz qui sont au sud n'alimentent pas, la consommation de gaz est au nord. Il n'y a pas de gazoduc qui traverse le pays, ça vaut pas le coup. Donc, qui s'importe au nord, qui s'exporte au sud. Donc, le gaz, la notion même de pic mondial est un truc qui est beaucoup plus délicat à calculer, parce que ça n'a pas vraiment de signification. Mais il y en aura quand même, mais ça n'a pas vraiment de signification. Alors, nous sommes ici. Et vous voyez en bas, il y a peut-être des questions là-dessus tout à l'heure, les fameux gaz de schiste, qui en fait ne sont pas pour l'essentiel des gaz de schiste, mais des gaz non conventionnels. Et vous voyez que leur contribution pourrait faire passer du bleu au rouge. Ça ne changera pas fondamentalement le dessin de l'Europe, qui lui aussi est déjà contraint en termes de gaz. Alors, vous avez sur ce graphique, à nouveau, la production de gaz de la mer du Nord, que vous voyez ici en bleu, qui a commencé à décliner depuis 2005. Et là, vous avez les importations du reste du monde qui se sont arrêtées de croître depuis 2005, 2006 également. Aujourd'hui, les importations sont à peu près 40%, dont 20% provenant de Russie. Ça ne va pas beaucoup contenter ce terme-là, en particulier les exportations russes. Elles sont stables depuis 20 ans, en volume. Hein. Ça fait 20 ans que les exportations russes sont aux alentours de 100 millions de tonnes d'équivalent pétrole par an. Et ça va se mettre à décliner très rapidement après 2020-2025, quand la Norvège aura passé son pic. Et quoi que pensent les Européens, et quoi que l'on réclame à nos gouvernants sur le prix du gaz, évidemment, le gaz va baisser. Si en plus les Allemands ont l'idée sympathique de remplacer une partie de leur nucléaire par du gaz, ça va mettre sous contrainte encore plus vite le reste des consommateurs européens.
reste le charbon. Alors le charbon, et ceci n'est pas un hasard, il y en a là, c'est pour ça que c'est pas un hasard. Le charbon, on a coutume de dire que c'est une énergie bien répartie, qu'il y en a partout, etc. Oui, sauf que non. Du charbon, il y en a beaucoup dans 8 pays. 8 pays dans le monde détiennent plus de 90% du charbon mondial. Vous trouvez les deux frères ennemis toujours, là, les Américains et les Russes, après la Chine, après l'Inde, etc. Le seul pays européen de l'affaire, c'est l'Allemagne, qui a surtout une qualité de charbon un peu dégueulasse qui s'appelle une lignite, qui est un truc qui s'exploite à ciel ouvert en faisant des dégâts en Europe pour être absolument monstrueux, indépendamment du fait que ça fait plein de CO2. Et à part ça, vous n'en avez pas, vous en avez un peu en Pologne, mais beaucoup moins. Donc le charbon, c'est quelque chose qui est disponible en grande quantité, oui, mais pas chez nous. Après, l'Europe importe déjà la moitié de son charbon. Hein? Donc le charbon, ce n'est pas une énergie qui est si disponible que ça en Europe, et comme nous sommes européens dans cette salle, c'est quand même cette région-là qui nous intéresse avant tout. Voilà à quoi ressemble l'approvisionnement énergétique européen depuis 1965. Donc vous rajoutez un pétrole qui a commencé à baisser, un gaz qui a commencé à baisser, du charbon qui lui était plutôt orienté à la baisse, un nucléaire qui maintenant est aussi orienté à la baisse, de l'hydroélectricité qui, à cause du stress climatique qu'on commence à avoir en Europe, est aussi plutôt orienté à la baisse. C'est pas le truc qui excite les journalistes en haut, là, qui va compenser grand-chose. En plus, pas beaucoup. Donc vous voyez que l'approvisionnement énergétique européen est déjà parti à la baisse et ça va continuer, et donc le PIB européen, il est parti à la baisse et ça va continuer. Donc à partir de maintenant, la récession sera, ou la stabilité du PIB, sera la donnée de base structurelle en Europe. Moins on voudra voir, plus on prendra taf. Je le répète, hein. Moins on voudra voir, plus on prendra taf. Et quand on ne comprendra pas d'où viennent les baffes, parce qu'on n'aura pas envie de voir, à ce moment on verra monter les populistes. Il y a quelques cheveux blancs dans cette salle, ça vous rappelle des souvenirs des affaires. Voilà à quoi ressemble la facture énergétique de l'Europe. En bas, tout en bas, vous avez le charbon n'est pas très cher. Là, vous avez le pétrole, vous voyez l'essentiel du problème européen, c'est le pétrole, et là, vous avez le gaz. 600 milliards de dollars, pas mal, hein, c'est quoi faire avec ça. Plus exactement, si on investissait en Europe pour en consommer moins, on pourrait faire de la politique. Voilà maintenant quelque chose qui confronte l'offre contrainte, dont je viens de vous parler, avec le souhait du consommateur. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire le consommateur? Il veut avoir des bagnoles en quantité croissante, des mètres carrés en quantité croissante, des verres en plastique en quantité croissante, etc. Et ça, ça donne la consommation d'énergie que vous avez en haut, là. Et en bas, alors ça, c'est pas juste pour le consommateur européen, c'est pour le consommateur mondial. Et en bas, vous avez ce que pourrait nous offrir une nature très généreuse, parce que quand vous regardez un peu les chiffres qui sont là, pour les gens qui connaissent, on est vraiment dans des hauts fourchettes. Et bien, ce que vous voyez, c'est que l'offre énergétique mondiale, même avec les stocks extractibles qui seraient vraiment dans le haut de fourchette, n'est pas capable d'assurer une demande croissante jusqu'à la fin du siècle, loin s'en faut. Or, ma première loi de la thermo s'applique toujours. Je ne peux pas consommer une énergie qui n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, ça n'arrivera pas. Donc, à chaque fois que vous voyez passer un rapport dans lequel on vous prédit que la consommation d'énergie va augmenter, barré, on vous prédit que, remplacé par on aimerait bien que, et là vous avez la vérité. D'accord? Et sinon, ce qui permet d'avoir la consommation d'énergie qui augmente, c'est que la production augmente. Et en plus, si on ne veut pas, et ça va être un petit complément que je vais vous faire maintenant, avoir une dérive climatique qui sera totalement ingérable pour la fin de mon existence et pour une bonne partie de l'existence des plus jeunes qui sont dans cette salle, il ne s'agit pas des générations futures, ça s'appelle les générations futures, à ce moment-là, ça n'a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Eh bien, ce charbon, il ne faut surtout pas y toucher, et même une bonne partie de ce gaz et de ce pétrole, il vaudrait pas y toucher. Dit autrement, si on était sérieux sur le changement climatique aujourd'hui, on commencerait par interdire aux pétroliers d'aller chercher du vrai gaz. Si on était sérieux, ça compte. Hein? Alors, je ne sais pas trop faire. Si on était sérieux, ça compte. Donc, vous comprenez qu'on n'est pas dans une équation très simple vue du côté aval. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu du côté aval. C'est-à-dire le relèvement des températures. Alors, c'est clair que dans cette affaire, et c'est pas juste une blague, il y a un certain nombre de gens qui se sont dit, vous savez, c'est l'argument qui court souvent, quand on regarde les époques anciennes, la civilisation se portait plutôt mieux quand il faisait chaud que quand il faisait froid, et donc finalement, quand il fait chaud, c'est plutôt une bonne nouvelle, et on peut se demander, finalement, pas beaucoup plus heureux en 2020. Alors, blague à part, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire de réchauffement climatique? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le réchauffement climatique procède d'une donnée simple qui est que le CO2 a des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des molécules de CO2 qui se baladent près du sol, elles ont des raies d'absorption dans une partie du rayonnement émis par le sol, qui lui-même rayonne parce qu'il est échauffé par le soleil. Et plus vous mettez de CO2 près du sol, et plus vous avez une conservation importante de l'énergie, de cette énergie de rayonnement près du sol. Donc plus vous augmentez la température d'équilibre du sol. Au premier ordre, c'est à peu près ça qui se passe quand on augmente la quantité de CO2 dans l'air. Alors pourquoi ce CO2 accepte de rester dans l'air, le fichement très rapidement? Tout simplement parce que c'est une molécule chimiquement très stable. Donc quand vous mettez du CO2 dans l'air, la seule manière qu'il a de partir de l'air, c'est quand il est soit absorbé par un océan, et ça c'est pas la dissociation chimique, c'est purement physique, hein, c'est des équilibrages de pression partielle, soit il est dissocié par une plante avec l'aide d'un photon, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc les prestigieux agronomes à venir dans cette salle en train de parler tous les jours. Donc le CO2, si ni vous le mettez dans l'eau, ni vous le photodissociez près d'une plante avec un photon, il reste dans l'air. Donc le fait de rajouter plein de CO2 dans l'air, ce que nous faisons aujourd'hui avec les énergies fossiles, augmente la quantité de CO2 qui va rester dans l'air. Donc augmente la température des pays du sol. Vous avez ici un petit graphique qui vous met en perspective la manière dont a évolué la température moyenne de la planète depuis le début du XXe siècle et la manière dont ça pourrait évoluer à l'avenir en fonction du supplément de CO2 qu'on va rajouter dans l'air. Donc en gros, de la manière dont on va souhaiter ou parvenir à consommer de l'énergie pendant le siècle qui vient. Alors ce que vous voyez, c'est que la température a déjà commencé à augmenter d'une fraction de degré, 1900. Cette partie-là du réchauffement, ça il y a encore un grand débat, mais cette partie-là du réchauffement, on est raisonnablement sûr, voire à peu près certain, que c'est nous. Dit autrement, s'il n'y avait pas eu l'homme sur Terre, cette partie-là de la courbe n'existerait pas. On serait en dessous. Mais le problème, il n'est pas derrière, le problème, il est devant. Dit autrement, la question c'est jusqu'où on va monter. Alors, il y a une version très basse, on zigouille tout le monde demain matin, plus d'émissions supplémentaires, donc pas de nouvelles qui va être réservée, plus ou moins. Cette courbe-là vous donne donc le talon bas de ce qui peut se passer en termes d'augmentation de la température moyenne. Puisqu'on ne peut pas faire moins que de supprimer toutes les émissions demain matin. On peut éventuellement séquestrer du CO2 très loin dans le siècle, mais pas demain matin, donc ça vous donne un talon bas. Voilà le genre de truc qui nous attend si simplement la consommation d'énergie reste constante dans le monde, et à ce moment, si on est aussi communiste que nos grandes déclarations le laissent penser parfois, c'est-à-dire que tout le monde a droit à la même chose sur Terre, ça veut dire, soit dit en passant, que la consommation d'énergie des Français est divisée par deux, si elle reste constante globalement dans le monde, par 2 à 2,5. Ça, c'est un scénario qui correspond au fait de consommer tout le charbon facile, que je vous ai montré tout à l'heure, et ça, c'est un scénario dans lequel je consomme aussi des tas de machins divers et variés, des hydrates de méthane qui arrivent à les exploiter, du charbon pas facile, etc. Ça correspondrait au fait que vous avez des milliards de terriens et qu'ils vivent comme un pôle net en 2000, hein, pour vous donner une idée du scénario socio-économique. Ce que vous avez là, c'est des barres d'erreur sur la plage de température dans laquelle on peut se trouver pour un scénario donné. Alors il faut savoir que ce graphique qui a été fait en 2007 a été fait avant 4 ans de publication scientifique dans lesquelles, en gros, à peu près chaque publication qui sort pousse les résultats un peu plus vers le haut de la fourchette. À chaque fois qu'il y a une nouvelle publique qui sort, on dira « là, ça semble aller plus vite que l'idée qu'on s'en fait ». Et pour ceux qui suivent le sujet, vous avez peut-être entendu parler du niveau extrêmement bas qu'a atteint la banquise arctique cette année. Elle est typiquement descendue à une superficie que dans les simulations effectuées il y a quelques années, on ne voyait pas arriver avant quelques décennies. Hein? Donc il est parfaitement possible que le système soit en train d'évoluer dans le haut, voire dans le très haut de la fourchette par rapport à ce que donnaient les simulations il y a quelques années. Et à ce moment, avec le scénario d'émission où on consomme le charbon facile, on n'est pas rendu à 3 degrés, on est plutôt rendu à 5, voire à plus. Alors, 5 degrés en un siècle, ça peut sembler pas grand-chose. En fait, 5 degrés, c'est quelque chose d'absolument massif. Déjà, si je remonte non pas un siècle en arrière, mille ans en arrière, vous avez ici l'évolution des températures de l'hémisphère nord, puis de la totalité de la planète sur 1000 ans en arrière et un siècle en avant. Et vous voyez que on a affaire, dans tous les cas de figure, à quelque chose qui est totalement exorbitant par rapport à l'évolution naturelle du système. Si je prends un parallèle sur ce qui vaut, prenez un poisson rouge. Le poisson rouge est totalement insensible à une variation de température interne de quelques degrés. Vous pouvez en faire l'expérience, bien sûr que ça marche bien. J'ai essayé de tuer celui de ma fille un certain nombre de fois comme ça, ça n'a jamais marché. Donc le poisson rouge a une température interne, 5 degrés en plus, 5 degrés en moins, etc. Maintenant, vous prenez un être humain, il a une température interne très finement ajustée, et vous pouvez faire l'expérience une fois par mois pour ceux qui vivent en couple. Quand la température de madame varie quelques dixièmes de degrés, regardez les résultats. Donc, la température du corps humain, c'est pas fait. C'est pas fait pour varier beaucoup longtemps. Et si je poursuis ce parallèle, vous prenez un être humain, vous lui infligez une variation de sa température interne de 3 degrés, en plus ou en moins, je m'en fiche. C'est juste une question de temps qui meurt. D'accord ? Juste une question de temps. Donc, une variation de quelques degrés sur une courte période, pas de problème. Mais ce n'est pas l'état que vous pouvez laisser perdre. Et bien, le système climatique, c'est exactement pareil. Le système climatique, une variation de quelques degrés de la moyenne planétaire, c'est un choc massif pour un système climatique. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que la variation de température qui nous a fait passer de la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans, à aujourd'hui, c'est juste un réchauffement moyen de 5 degrés pour la planète dans son ensemble. Donc quand on est passé de la dernière ère glaciaire à aujourd'hui, il faisait plus froid évidemment, hein, pas plus chaud aujourd'hui, dernière ère glaciaire où il faisait plus froid aujourd'hui, à aujourd'hui, la température moyenne n'est montée que de 5 degrés. Et ça a pris 10 ans. Ça a suffi pour faire fondre des calottes glaciaires qui faisaient des kilomètres d'épaisseur sur le Canada, où je vous recommande d'aller, sur le Groenland, où je vous recommande d'aller, et en Suède, où je vous recommande d'aller aussi, hein, toutes ces zones, et corrélativement, ça a fait remonter le niveau de l'océan 120 mètres. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui aiment faire du bateau dans la Manche, 10 000 ans, il n'y a pas de Manche. Enfin, il n'y a pas de Manche, il n'y a pas de Manche. 10 000 ans, elle a commencé à apparaître. Et enfin, les variations de température régionale n'étaient bien évidemment pas juste 5 degrés partout. Hein? Il y a des endroits où la variation a été beaucoup plus ample, des endroits où elle a été plus faible. Quand vous voyez le genre de changement global qu'introduit une variation de 5 degrés de la température d'équilibre du système climatique, vous comprenez que s'amuser à provoquer ce genre de variation en un siècle se traduira par un monde totalement chaotique, violent et guerrier. Parce que vous aurez une telle déstabilisation des systèmes installés partout que sur une planète peuplée de 9, 8, 7, peu importe, milliards d'individus, vous allez avoir globalement des conflits partout. Parce que vous aurez des conflits pour accéder aux ressources résiduelles qui seront plus là où vous êtes, en général. Alors cette affaire a déjà partiellement commencé, je vous montrerai après, et ma théorie, c'est que par exemple, les troubles que vous avez eu au Maghreb l'année dernière, qu'on a coutume d'appeler le printemps arabe, ont un déterminant climatique qui est déjà bien marqué. Alors comme conséquence de ce genre d'évolution, vous allez avoir des tas de choses, hein. Vous allez avoir des impacts sur les écosystèmes, vous allez avoir des impacts sur la prévalence des maladies, parce que les petites bêtes, elles, et nos cultures qui se réchauffent, vous allez avoir le niveau de l'eau qui va monter, alors là, avec des conséquences qui peuvent être très loin de là où ça se passe, vous savez qu'une bonne partie des centrales électriques dans le monde sont en bord de mer, parce qu'il faut les refroidir, et si vous en avez une fraction croissante qui se retrouve hors d'usage, ça impactera la manière dont vivent les gens, même au milieu des terres. Même au milieu des terres. Donc il ne faut pas croire que dans le monde interconnecté que nous avons créé, il existe des oasis de tranquillité où les autres peuvent bien crever et où il ne nous arrivera rien. Personnellement, j'en doute pas. Vous aurez, en fait, vous avez déjà, je vous montrerai après, une augmentation des vagues de chaleur, des sécheresses. Vous aurez une modification de la circulation océanique à grande échelle, parce que la différence moyenne de température entre l'équateur et les pôles va diminuer. Vous allez peut-être avoir une augmentation des phénomènes climatiques intenses, ça c'est une question qui est toujours ouverte. Vous aurez une pression sur la désagrégation du Groenland et de l'Antarctique. vous allez avoir, ce ne sera pas un effet climatique, c'est un effet chimique, une augmentation de l'acidification de l'océan, enfin, pardon, une augmentation de l'acidité de l'océan, l'acidification, et passé un certain niveau, ça rendra très difficile la synthèse du calcaire utilisée par un certain nombre de micro-organismes marins, ainsi qu'un certain nombre de coquillages. Et enfin, le système possède des boucles de rétroaction positives, c'est-à-dire un mécanisme amplificateur. Passé à un certain niveau de déstabilisation, vous allez commencer à tuer, entre guillemets, les écosystèmes. Donc vous les empêchez de croître rapidement, et dans le même temps, vous allez accélérer la décomposition microbienne du carbone des sols, et donc avoir des émissions de CO2 croissantes en provenance des sols. Avec comme effet possible que, passé un certain seuil, c'est la nature qui se met à devenir émettrice nette de CO2, et plus nous. Et enfin, vous avez des stocks de carbone qui, là, étaient immobiles depuis des millions, voire des dizaines de millions d'années, sur lesquels il y a des points d'interrogation pour savoir s'ils vont pas redevenir mobiles à la faveur d'un réchauffement accéléré. Et enfin, quand on est en train de faire, grandeur nature, une expérience inédite dans un monde compliqué, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on ne sait pas tout. Alors après, on retourne écouter, enfin vous lire exactement le dictionnaire. Quand vous savez, quand il arrive des trucs que vous n'avez pas prévus, ça fait une surprise. Si vous ne l'aviez pas prévu, la probabilité pour que vous soyez bien organisé pour y faire face est moins élevée. Donc ce genre d'évolution, plus elle sera ample, plus elle vous amènera des désagréments dits imprévus. Et je vais vous montrer maintenant que, de mon point de vue, ce qui s'est passé au Maghreb a déjà un temps. Alors, je vais revenir à mes statistiques fétiches. Vous avez ici des courbes qui ont été publiées extrêmement récemment, puisque, sauf erreur de ma part, ça a été publié il y a un mois. Vous avez ici la distribution des températures autour de la valeur moyenne pour l'ensemble des stations de mesure terrestre de la température sur Terre sur la période 1950-1980. Donc, en fait, ce qui est gravé ici, c'est la distribution des températures autour de la valeur moyenne. Pour l'ensemble des stations de mesure de la température. Les trois zones sont colorées, alors l'homme qui a publié ça est un Américain, mais il est très francophile, quand c'est bleu, c'est que vous êtes plus froid que la moyenne, de plus de 0,4 écart-type, et quand vous êtes rouge, c'est que vous êtes plus chaud que la moyenne, de plus de 0,4 écart-type. Ça, c'est la distribution sur la période 50-80. Et puis là, vous voyez la distribution sur les trois décennies qui ont suivi. Regardez aujourd'hui, si ici, alors il en peut parler d'un dé que je trouve très parlant. Ici, pour savoir comment se distribuent les températures, vous prenez un dé, vous avez deux faces blanches, deux faces rouges, deux faces bleues. Vous jetez le dé, vous avez une chance sur trois d'être dans le blanc, une sur trois d'être dans le rouge, une sur trois d'être dans le bleu. Et bien, si vous utilisez la même gamme de couleurs sur cette décennie-là, la surface blanche, vous n'en avez plus qu'une et non pas deux. La surface bleue, vous n'en avez plus deux, mais plus demi. Et la surface rouge, vous en avez plus une, mais trois. Et vous avez une demi-surface, oui, qui sont des températures inédites jusqu'à présent. C'est-à-dire que maintenant, on est rentré déjà dans une époque dans laquelle vous avez quelque chose de statistiquement significatif dans ce qu'on a coutume d'appeler les canicules. Voilà. On est déjà rentré aujourd'hui dans un épisode de canicule dont le temps de retour, il est statistiquement établi qu'il est devenu inférieur à ce qu'il était à l'époque 1950-1980. Et évidemment, ça va s'amplifier. Alors, quel rapport cette affaire avec ce qu'on a appelé le printemps arabe ? Il y a un rapport le plus simple. Ça, c'est un article qui a été publié il y a un an et qui vous donne l'effet de l'augmentation des températures et de la variation des précipitations sur les rendements d'un certain nombre, sur les rendements du maïs dans un certain nombre de régions dans le monde. Ce que vous dit ce graphique, c'est que l'effet combiné de la variation de température et de la variation de précipitation, donc due au changement climatique, vous induit une pression à la baisse sur le rendement du maïs qui est quelque part entre, on va dire, 2 et 11%. Pour le moment, vous avez un effet fertilisation du CO2 qui joue en sens inverse, donc le rendement global est à peu près constant. Mais l'effet fertilisation CO2 va s'estomper avec le temps, alors que cet effet-là va s'amplifier. Donc on a déjà un effet discernable du changement climatique sur le rendement des cultures de maïs, et c'est pareil sur le rendement des cultures de blé. Alors là, vous voyez le début du lien avec le printemps arabe. Regardez la Russie. La Russie est une des zones exportatrices de céréales significatives dans le monde, avec d'autres, mais une des zones. En 2010, vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu un épisode caniculaire particulièrement violent en Russie, et la Russie a décidé, overnight, de supprimer ses exportations de céréales. Toujours overnight, le prix des céréales sur le marché mondial, 40%. 40%. Et quand vous regardez pour la Tunisie, où une personne sur deux mange avec les importations, et l'Égypte, où une personne sur quatre mange avec les importations, ce que représente pour les déciles bas, donc les gens qui gagnent le moins, un doublement du prix des céréales sur le marché mondial, vous vous retrouvez face à une inflation des produits alimentaires qui représente plusieurs dizaines de pourcents de ce qu'il gagne. Plusieurs dizaines de pourcents de ce qu'il gagne. Vous avez évidemment eu le même genre de sujet en Algérie, sauf qu'en Algérie, ils ont du gaz, ils ont des recettes à l'exportation, et donc il y a des moyens budgétaires de cadrer les gens. En 2011, en Tunisie, vous êtes post-crise, il n'y a plus de recettes touristiques, les finances de l'État sont à sec. Boum. En Égypte, plus de recettes touristiques, pas de recettes à l'exportation, les finances de l'État sont à sec. Boum. Au Maroc, où l'agriculture est plus développée, moins bon. Donc ce qui s'est passé en 2011 a déjà un rapport, en tout cas ça donne déjà une idée à petite échelle du genre de phénomène auquel il faut s'attendre de manière croissante dans un monde qui sera de plus en plus soumis au stress alimentaire, et notamment pour les pays qui dépendent des importations céréales. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, le Mexique a des surplus pétroliers et importe des céréales. Dans n'importe quoi, entre 3 et 15 ans, ils n'auront plus de surplus pétroliers et ils auront une population plus nombreuse. Oui. Donc, ce genre de sujet, vous allez commencer à le voir apparaître de manière croissante et ça va être un des déterminants de l'évolution du monde. Maintenant, je vais vous finir avec 2-3 petits graphiques qui vont essayer de vous expliquer, pour tous les jeunes qui sont dans cette salle, où sont les paramètres de l'action, en quoi il va plus y avoir de paragraphie, hein, donc on ne va pas pouvoir les expliquer au tableau. Et je vais à nouveau faire ça avec quelques petites règles de 3. Alors, je recommence ma règle de 3, et cette fois je pars du CO2, qui, comme la fois précédente, est égal à lui-même. C'est quoi CO2 dans cette graphique? C'est les émissions mondiales de CO2. À droite, je divise et je multiplie, en fait, cette fois-ci je n'avais plus énergie, je l'avais peut-être, mais c'est pareil, par énergie. Ça, c'est un terme, là, qui désigne l'efficacité CO2 de l'énergie. Donc plus il est faible, plus j'utilise des énergies décarbonées. Hein? Donc plus ce terme est faible, plus j'ai une contribution importante de l'hydraulique, du nucléaire, de l'éolien, de la voie de tout ce qui n'a pas de carbone. Hein? Éventuellement, la capture de CO2. Je continue ma règle 3. Ici, j'ai de nouveau mon efficacité énergétique de l'économie. Hein? En fait, c'est le terme inverse. C'est combien j'utilise d'énergie pour faire un dollar ou PIB. Et enfin, je multiplie par la population. Donc, ce que je viens d'expliquer là, c'est que les émissions mondiales de CO2 sont égales au produit de 4 termes, qui sont la population, le PIB par personne, l'intensité énergétique de l'économie et le contenu en CO2 de l'énergie. Ça, c'est magique technique. Donc, c'est les gens qui sont aux arts et métiers, là, en ce moment, et qui vont. Vous n'avez pas une équipe normale. Et qui vont nous faire, en tout cas pas mal, des dispositifs qui utilisent moins d'énergie pour rendre un service considéré comme identique. Donc, les gens qui vont faire les voitures à l'huile, tout ça, M. Jérôme, c'est eux. Et qui vont nous faire ici de l'énergie décarbonée, donc ou des éoliennes, ou des centrales nucléaires, ou des barrages, c'est eux aussi, ou des rayons de chaleur. Ici, vous avez le royaume des économistes. Les économistes en général ne parlent pas aux gens qui sont là. Et ici, vous avez le royaume des démographes qui en général ne parlent pas aux gens qui sont là. Donc ce qui est très intéressant avec cette équation, c'est que en mettant le terme de gauche sous contrainte, et là, je mets sous contrainte suffisante pour que la dérive climatique soit contenue dans quelque chose d'à peu près acceptable. Eh bien, je vais voir si à droite, j'arrive à trouver des gens qui se mettent d'accord entre eux pour me proposer une manière de gérer le problème, ou si je ne vais pas y arriver. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si je dois diviser les émissions mondiales de CO2 par 3, en fait, c'est d'ici 2050, si je veux avoir une dérive climatique à peu près contenue. Eh bien, ça signifie que l'ensemble de mes 4 termes de droite, je dois également les diviser par 3. D'accord, on va faire un sondage. La première possibilité, c'est de diviser ça par 3. Mathématiquement, ça marche. Qui est pour? sont pour ou contre, c'est pas le sujet. Ils disent, bah, moi, je vois un scénario dans lequel la population monte jusqu'à 9 milliards d'individus en 2050. Voilà. Donc, quand vous avez une décision à prendre, vous dites, bon, bah, caler sur une décision politique, caler sur ce qu'ils disent, donc, plus 30%. Alors, vous êtes d'accord avec moi, je dis ça, je vais diviser par 3. Là, je commence par multiplier par 1, j'ajoute 3. La mathématique est en question. Ça, je vais diviser par 4. Je vais continuer mon sondage. Qui est d'accord pour diviser ça par 4? Bon, la démocratie a parlé, rejetée, par contre, vous allez l'avoir quand même. Mais c'est pas grave. Vous allez l'avoir quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est pas comme ça qu'on résolve, il faut sauver les retraites, donc il faut que ça augmente, sauver le budget d'État, il faut que ça augmente de 2% par an. Alors, là aussi, Excel est imparable. À partir du moment où vous élevez 1,02 à la puissance 40, vous avez fait ce calcul en 2010, maintenant c'est à la puissance 38, eh bien, vous multipliez par 2 quelque chose, et si vous êtes sur du Atani plus, à ce moment, vous êtes plutôt à 5. Fois 1,3, fois 2,2, au premier ordre, ça fait donc fois 3,5. D'accord ? Et là, je vais diviser par 3. Donc, messieurs les arbres métiers, vous avez un facteur 10 à nous faire gagner là-dessus. Alors, qu'ont fait les gens qui sont sortis des arbres métiers il y a 30 ans ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je vais en sur LinkedIn, je regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça. Ils ont permis à l'économie mondiale, c'est le graphe, c'est la courbe que j'ai montré tout à l'heure, mais dans l'autre sens, de gagner à peu près 30% en 4 ans. Pas mal. Pas mal. On va dire que l'efficacité énergétique étant une affaire qui viendrait après monstrueusement capitalistique, c'est monstrueusement capitalistique l'efficacité énergétique. Il faut changer les bagnoles, il faut changer les immeubles, il faut changer les procédés industriels, changer les centrales électriques, c'est monstrueusement capitalistique de faire de l'énergie. On croit que c'est facile, pas du tout. Non, c'est pas capitaliste. Donc, je dis, allez, je prends le mètre. Et j'ai gagné 30% sur les 40 ans. Je vous assure. Si je prolonge et que j'ai gagné 30% sur les 40 ans qui viennent, je recommence. Fois 1,3, fois 2,2, fois 0,7, vous commencez à avoir très mal à la tête. Allez, je vous donne la solution tout de suite. Il faut que le dernier terme, là, on divise par 6 en 40 ans. Par 6. Alors que mondialement, on a gagné 10% sur ce terme, sur les 40 ans qui viennent de s'écouler. Et je peux vous dire qu'avec la sortie du nucléaire au Japon et en Allemagne, on ne prend pas vraiment le chemin d'améliorer ce terme-là. Alors maintenant, je vais repartir de l'autre côté. À partir du moment où ça ne sera pas volontaire pour des raisons de préservation du climat, mais un peu plus loin, involontaire, à cause des problèmes de stock, à ce moment-là, tout ce qui n'aura pas été fait là, 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 là. C'est juste des maths. On est d'accord ? C'est juste des maths. Donc, l'énergie mal gérée, ça diminuera l'espérance de vie, on arrêtera de payer la médecine pour les vieux. Bien sûr. On augmentera ça en interdisant aux gens de divorcer, ce qui marche très bien, etc., etc. Vous savez, quand on divorce, on augmente de 60% la consommation d'énergie des ex-conjoints, parce qu'il faut multiplier par 2 les surfaces chauffées en première approximation, il faut multiplier par 2 la construction de logements, il faut multiplier par 2 la fabrication des plats, des chaises, des lits, etc. Plus 60%. Donc ce qui se passera si on ne gère pas correctement ce problème énergétique, c'est que vous aurez des régulations violentes, violentes, du système socio-économique dans lequel nous vivons. Donc à ce stade, je pense que vous avez commencé à comprendre. Si on ne met pas cette affaire-là au centre de n'importe quel programme politique, je peux vous assurer que malheureusement, on ne prend pas le chemin, eh bien, ce qui nous attend, ce n'est pas du tout des lampes affichantes, c'est une succession de crises qui se chargeront de nous faire rester sous la plombe de ce que la physique nous permet de faire. Je vais finir avec... Non, ça, je ne vais pas parler, je n'ai pas le temps. Ça dit juste, mais vous l'avez compris à ce stade, qu'aujourd'hui, créer les emplois en maintenant les rémunérations des gens qui travaillent déjà, on ne va pas y arriver. Donc, créer des emplois va passer par une diminution des revenus moyens. C'est comme ça qu'il va falloir faire. Pas parce que ça me fait plaisir. Dernier point. Alors ça, c'est pour tous les gens qui ont des décisions à prendre, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie économique. Je vous propose une petite grille de lecture pour savoir si la décision que vous prenez, vous êtes sûr qu'elle flotte dans tous les cas de figure qui peuvent se présenter à nous demain matin. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, mon métier est d'être consultant, et les consultants ne savent faire qu'une seule chose, c'est les pratiques à deux axes. Donc ici, j'ai gradué de manière fictive ce que j'appelle la contrainte carbone. Donc la contrainte carbone, c'est quoi? C'est une contrainte d'approvisionnement et une contrainte de dérive climatique. Si je suis là, j'ai plein de charbon, plein de pétrole, plein de gaz, et le climat, en fait, il reste relativement insensible au chapitre que j'ai fait. Si je suis là, j'ai demain matin des problèmes d'approvisionnement dur, et après demain matin, à cause de l'inertie climatique, pas du système climatique, de toute façon, une dérive climatique très importante. Hein? Donc là, j'ai une contrainte physique maximale. Et puis cet axe-là, il gradue l'envie qu'on a de faire des choses ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, faire des choses ensemble? Ça veut toujours dire sacrifier une partie de cette liberté individuelle. C'est ça que ça veut dire, faire des choses ensemble. Coopérer, ça veut dire accepter de considérer que l'autre est recevable. C'est ça que ça veut dire, coopérer. Une organisation, c'est toujours un système dans lequel pour recevoir, on doit donner. Hein? Donc, si je suis là, c'est un monde individualiste où tout le monde se fout de son voisin. Et si je suis là, c'est un monde collaboratif dans lequel on accepte de faire des efforts pour la collectivité. Quelle que soit la nature de ces efforts, et quelle que soit la manière dont on les définit. Le monde qu'on consomme, il est là. Donc quand on réfléchit à l'avenir d'un système, que ce soit qu'il s'agisse de l'Université de Bourgogne, d'EDF, d'un constructeur automobile, ou de votre couple, eh bien, on peut se dire, bah, moi, je m'organise dans un monde qui va rester comme ça, parce que je crois que c'est comme ça que ça va rester. Alors le monde qui va rester comme ça, c'est plein d'énergie, le climat, c'est pas un gros problème, etc. Il y a tous les métaux, etc. Et ça, c'est le même qui plaît à Sarkozy, voilà. Maintenant, il se peut qu'on soit là. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire aucune envie de collaborer avec une contrainte maximale. Ça, c'est l'effondrement. Hein? Aucune envie de collaborer avec une contrainte maximale, ça s'appelle l'effondrement. Pour ceux d'entre vous qui ont lu ce bouquin de Jared Diamond, qui s'appelle justement l'effondrement, qui collapse en anglais, il décrit que les sociétés meurent exactement en se retrouvant en ce cadre-là. C'est-à-dire, à un moment, il y a un défaut d'anticipation sur le système collaboratif, avec une contrainte en face à laquelle on n'est pas capable de faire face. Moi, je vous donne quelques éléments qui pourraient ressembler à ce genre de monde. Donc, vous avez des contraintes physiques maximales, des ruptures d'approvisionnement de plus en plus fréquentes. Donc, au lieu qu'une fois de temps en temps, on ait un grand coup de fait vapeur parce que l'Ukraine coupe le tuyau, ça lui arrive tous les 15 jours en hiver. Et vous avez des ruptures électriques en permanence, ça désorganise la production, ça fait mourir les vieux dans les hôpitaux, etc. Voilà. Vous avez des crises de plus en plus fréquentes qui se chargent de continuer le système de marche escalier. Vous avez évidemment une réponse politique qui un jour ou l'autre se met à ressembler à ça. Alors, vous allez trouver un peu fou quelqu'un qui l'a écrit de manière aussi claire, juste un peu plus polissé, c'est Marcel Boiteux, en 2004. Il faut faire passer son papier, Marcel Boiteux, ancien président d'EDF, a écrit en 2004. Que l'alternative à faire des efforts sur cette contrainte-là, ça fait la dictature. C'était même la dernière phrase du papier qu'il a écrit. C'était la dernière phrase que j'avais laissée au hasard. Donc, on va avoir ce genre de choses, et une bonne partie, et c'est là que je vais faire beaucoup de peine aux économistes classiques, une bonne partie de ce qui va se passer deviendra hors marché. Il n'y aura plus de marché. On ne laissera pas les gens libres de vendre et d'acheter comme ils ont envie. Le marché n'existera plus. Donc tout ce qui les grandes spéculations sur l'évolution du marché, c'est juste des plans sur la planète. Alors vous avez une contrainte, une manière un peu plus sympathique de voir les choses, c'est la Grèce. Donc la Grèce c'est quoi? C'est on a laissé le problème courir plus vite qu'on aurait voulu, mais une fois que le problème est là, vraiment on fait des efforts pour essayer de le traiter. Alors c'est pas une situation drôle non plus. Hein. On est vite à l'aise. À part ça, c'est pas une situation très drôle. La situation dans laquelle on stabilise le système par anticipation, bah, c'est exactement le même raisonnement que dans on souscrivait une police d'assurance. Pour éviter un jour d'avoir à vivre un truc dramatique, tout de suite vous avez un peu moins d'argent pour aller au restaurant. Hein? C'est la règle du jeu. Alors ce monde-là, c'est quoi? C'est un monde dans lequel on paye tout de suite le prix de l'effort. Alors le prix de l'effort, c'est la taxe carbone, c'est accepter certains risques qui sont bien moins violents que cela. J'insiste, hein, bien moins violents que cela. Vous acceptez des contraintes réglementaires, il est interdit d'acheter une voiture qui consomme plus de 4%. C'est interdit. Soit dit en passant, la voiture de M. Hérault à 2 litres %, ça ne marche que si c'est dissuasif d'en acheter une à 3 litres %. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Le simple fait de savoir la faire, c'est pas pour autant que les gens vont acheter ça. Si c'est toujours possible d'acheter une voiture à 3 litres % pour une large partie de la population, c'est ça que vous voulez. Vous aurez, à mon avis, quand même Meadows qui aura raison, c'est-à-dire que vous êtes plutôt dans un monde de PIB faiblement décroissant, et là aussi, comme l'écrivait Marcel Boiteux en 2004, car il l'a écrit, il vaut mieux, et de loin, une croissance que l'on brise de mer avec le bon système qu'un système qui s'effondre. Il l'a écrit. Et enfin, vous préservez la paix, ce qui n'est quand même pas une mince affaire, vous avez moins de volatilité, et ça, c'est typiquement un monde dans lequel une partie des problèmes importants sont traités avec de la visibilité, et donc là, vous pouvez faire le point. Dans ce monde-là, il n'y a pas de problème. Dans ce monde-là, on n'en fait pas. Et si vous prenez votre quotidien, à chaque fois que vous partez faire de la montagne, faire du camping, en bateau, dans une location l'été, etc., en fait, vous passez de ce monde-là à ce monde-là. Vous acceptez en général moins d'espace habitable, un système plus contraint, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très malheureux pour autant. Donc l'idée est qu'il n'y a rien à espérer d'un monde dans lequel on va devoir faire des efforts sur notre consommation matérielle, ça je ne crois pas que ce monde. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il n'y a strictement rien à espérer d'un monde dans lequel on refuse de voir en face les contraintes telles qu'elles sont et de s'organiser en conséquence pour être heureux quand même. Et je m'arrête.
Installer non seulement des éoliennes, mais des usines pour fabriquer les mâts des éoliennes. J'ai l'impression, en quelque sorte, qu'on fait des conservations, qu'on fait des usines de conservation pour les sardines en Bourgogne.
Ah, ça va. Si vous les conservez dans un bon cru, c'est peut-être là que vous les mettez en boîte. Alors, la première chose, ça va vous paraître très prétentieux ce que je vais vous dire, et pour ça, j'y croyais pas moi-même, mais pourtant c'est la vérité. La quasi-totalité des gens qui prennent des décisions politiques ne savent pas ça. D'accord ? Ça peut vous paraître hallucinant. Et pourtant c'est la vérité, je vous assure. Le ministre de l'Environnement qui vient d'arriver, la madame Bateau, ne connaît strictement rien aux questions d'énergie. Quand Bordeaux est arrivé au gouvernement, il connaissait strictement rien aux questions d'énergie. Kosciusko connaissait un peu, quand Joanneau a arrêté le gouvernement, elle ne connaissait pas grand-chose aux questions d'énergie. Alors après, ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas être des personnes curieuses, intéressées, etc. J'ai mon avis sur chacune d'elles. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où les gens prennent leur fonction, en général, ils ne connaissent pas grand-chose. Un gouvernement fonctionne à l'inverse d'une entreprise. Vous nommez un type parce que vous pensez qu'il va être capable, avec son expérience passée, de traiter le secteur dans lequel il est. En politique, c'est l'inverse. C'est au moment où il s'en va qu'il commence à comprendre à peu près de quoi il retourne. En règle générale, il y a des exceptions, mais en règle générale, c'est très marché. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la décision politique ne se prend pas sur la base d'une analyse rationnelle, elle se prend sur la base de celui qui gueule le plus fort. Comment est-ce qu'on traduit le fait que les gens gueulent fort? Il y a deux manières, seulement, pour représenter 10% de l'économie du pays, ou vous représentez 10% de la pagination du journal. En ce qui concerne le journal, il y a un syndrome astérix très fort dans notre pays qui fait que dès que vous avez un conflit entre gros et petit, le petit gagne. Donc, le mec qui contient quelque chose, il a toujours un boulevard médiatique par rapport à la puissance installée, quelle que soit cette puissance, quel que soit le secteur. C'est toujours comme ça que ça existe. Un truc qui m'a toujours fait rigoler, puisqu'on parle d'énergie ici, et je ne dis pas ça, c'est répondre, on va être à droite, c'est qu'un argument couramment utilisé par les antinucléaires, c'est que ça nous empêche de vous exprimer. Regardez la presse, c'est l'exact inverse. C'est EDF que vous entendez jamais. Du reste, à mon avis, vous avez un peu trop peur de votre monde, c'est un autre sujet. Mais le fait est qu'on ne les entend jamais. Ceux qu'on entend, c'est les gens qui sont contre. Quand vous avez une grève de train, ceux que vous entendez, c'est soit les usagers, soit les syndicalistes. Jamais les types qui gèrent les trains vous expliquent que, je ne sais pas quoi, il a tel et tel. Jamais. D'accord ? Donc, le journal surreprésente l'Eurostater, et l'Eurostater, en général, il y a une solution simple. Il n'y a qu'un. Donc, le politique, lisant le journal, parce qu'il n'a pas le temps de lire les centaines de pages qui sont faites par des gens qui sont dans la salle et qui ont décortiqué minutieusement les problèmes, et qu'il ne fait pas trop confiance parce qu'il ne comprend pas ce qu'il raconte aux gens dont c'est le métier de s'occuper de ce genre de trucs. Du reste, c'est bien pour ça qu'il a un cabinet. Il a un cabinet pour refaire en plus vite et en plus mal ce qu'est l'administration centrale. Eh bien, le politique va se décider sur un jeu d'acteurs extérieurs. C'est comme ça que ça marche. Donc, de temps en temps, ça tombe juste, et de temps en temps, ça traduit du grand n'importe quoi. C'est pas que l'ancienneté. Alors, si on prend le cas particulier de l'éolien, l'Europe a dit qu'il faut faire des énergies renouvelables. C'est notamment venu de l'impulsion des pays du Nord qui ne voulaient pas dire qu'il faut juste faire moins de CO2 parce que du coup ça rendait éligible le nucléaire et les Allemands n'aiment pas le nucléaire. Donc ils ne pouvaient pas dire qu'il faut juste faire moins de CO2. Donc ils ont dit qu'il faut faire des renouvelables. En France, on a dit bah donc c'est très bien, on va faire des renouvelables. Sauf que la question que j'ai essayé de vous exposer là, c'est pas faut faire des renouvelables, c'est faire moins de fossiles. Des fois, c'est beaucoup plus intelligent de faire toujours du fossile, mais beaucoup moins. Quand vous regardez le cas, par exemple, des déplacements, ça ira beaucoup plus vite de limiter la consommation des voitures en conservant des voitures à pétrole, de la limiter pour de vrai, pas ce qu'on fait actuellement, que de faire des voitures électriques partout. Ça ira beaucoup plus vite. Donc, pour les 40 ans qui viennent, à peu près. Donc, la décision politique ne se fonde pas toujours, ça arrive, pas toujours, sur une connaissance approfondie de la réalité technique ou physique du secteur. Voilà, c'est la ligne. Je vais vous donner un dernier exemple. Ni dans le Grenelle, ni dans le débat sur la transition énergétique, la science est représentée. C'est un peu comme si vous faisiez un grand débat en France sur quelle politique de santé il faut avoir, et les seuls que vous n'invitez pas, c'est les médecins. Là, c'est exactement pareil. Alors, je vous dis encore une fois, des fois ça compte juste, des fois ça compte moins.
Ah, monsieur.
Oui. Bonjour, Nicolas Meilleur. Moi, j'ai une question. On entend beaucoup parler de nucléaire. On entend l'Allemagne qui ferme le nucléaire, on entend le Japon qui ferme le nucléaire. Le nucléaire, dans les médias, c'est très bien. On entend beaucoup moins parler de charbon. On sait bien que l'Allemagne, par exemple, a arrêté le nucléaire, mais il y a un port de Fessenheim qui est à 2 km de l'Allemagne. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut inverser la tendance? Le charbon, ça émet 70 fois plus de CO2 au kilowattheure que le nucléaire. Comment est-ce qu'on peut inverser la tendance sur le charbon et faire que tout ce charbon, on le laisse dans le sol sans la taxe carbone?
On ne pourra pas. Alors, juste une précision, enfin deux précisions. Là aussi, ça va me permettre de rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. L'essentiel des commentaires qui ont été faits sur la décision allemande de sortie du nucléaire ont été des commentaires expliquant qu'elle allait remplacer ça par des énergies renouvelables. La réalité, quand vous regardez les plans d'investissement et les déclarations des opérateurs, c'est que dans un premier temps, ça va être essentiellement du gaz et du charbon. L'Allemagne va déclasser, sauf erreur de ma part, 23 gigawatts, c'est ça, de nucléaire, et ils ont 20 gigawatts de centrales à charbon et à gaz en construction, en projet. Donc ils vont remplacer l'essentiel de leur nucléaire par du gaz et du charbon, et il n'y a que la presse française pour penser qu'ils vont remplacer ça par de l'éolien. Le charbon est évidemment infiniment pire que le nucléaire à tout point de vue, ça fait plus de morts, plus de dégâts environnementaux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un sujet sur lequel le nucléaire soit pire que le charbon, pas un accident nucléaire. Le problème du nucléaire, c'est que ça fait des gros accidents une fois de temps en temps, alors que le charbon, il fait des petits accidents en continu, donc les gens trouvent ça beaucoup plus acceptable. Mais quand vous faites le bilan à la fin de 40 ans, il y a vraiment pas photo, il y a 3 heures de vendeur entre les deux, 4 heures de vendeur entre les deux, dans des valeurs de charbon. Donc, ce que vont faire les Allemands aujourd'hui, c'est, à cause de mon équation de Kaya que j'ai montré tout à l'heure, de deux choses l'une. Où ils vont être tellement bons, j'insiste, tellement bons sur l'efficacité énergétique, qu'ils peuvent se permettre à la fois de sortir du nucléaire et de remplacer le nucléaire, enfin, qu'ils peuvent se permettre le charbon et le gaz pour remplacer le nucléaire, d'accord ? Ou bien ils ont prévu de faire décroître le PIB par personne, qui est une autre option. Ou bien, ils sont juste pas sérieux sur ce qu'ils sont en train de raconter sur le CO2. Mon pari personnel, c'est qu'on est dans la dernière catégorie. Donc, ils sont en train de faire de torpiller l'Europe du climat. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc, ils sont en train de défaire un des trucs qui avait forgé l'identité européenne sur la politique énergétique. De fait. En cela étant, j'ai un ami dans le secteur du nucléaire qui m'a toujours dit le nucléaire, on arrêtera de parler d'en sortir le jour où quelqu'un l'aura fait pour de vrai. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'observer deux expériences grandeur nature qui s'appellent le Japon et l'Allemagne. Le Japon, avec la sortie du nucléaire, a engendré son premier déficit commercial depuis longtemps sur sa balance, enfin, la balance énergétique qui a pris un grand coup d'anglais. Mon sentiment, c'est que de toute façon, pour les 5 ans qui viennent, la messe est à peu près dite. Après, dans un contexte de récession répétée, etc., etc., il faut voir ce que ça va devenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de faire un pronostic. Pour répondre à la question sur la taxe carbone, oui. Alors, la taxe carbone pour les électriciens, parce que le charbon sert essentiellement à faire de l'électricité, ça s'appelle le prix de réserve de quota. Dit autrement, ce qu'il faudrait faire pour dissuader les Allemands de faire plein d'électricité au charbon, c'est de compléter le dispositif européen de quotas en disant qu'à partir de maintenant, chaque année, les quotas qui sont mis aux enchères, il y a un prix minimal d'enchères qui augmente avec le temps et on annonce à l'avance le prix minimal avec le temps. Donc ça revient à faire une taxe carbone. Et là, effectivement, il va se passer des choses.
Merci. En haut, il y a deux questions.
Il y avait un jeune qui s'appelait.
Je ne l'ai pas vu. Allez-y, allez-y. Vous levez, s'il vous plaît. Merci. Très en haut.
Bonsoir. Après avoir vu la conférence, je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait en retenir, en fait, s'il fallait. On a vu que c'était plutôt mal parti pour le progrès technique. S'il fallait plutôt partir sur une meilleure transmission de l'information, parce que. Si on pense à certains pays qui n'acceptent pas qu'il y ait un réchauffement global aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'on peut travailler aujourd'hui plutôt que sur le côté technique?
Alors, la réponse est une réponse à tiroir. Parce que je vais revenir à ce petit graphique. Ma réponse n'est pas du tout la même selon le cadran dans lequel on se situe. Donc, quand vous êtes en haut à gauche, vous construisez une cabane en plein au Canada et vous allez vous y planquer. Si vous pensez qu'il y a une chance qu'on puisse mettre en bas à droite, moi, c'est mon souhait, à ce moment, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être utiles, soit pour y aller, soit une fois qu'on y est. Alors, le genre d'économie qu'on a en bas à droite, je veux dire le genre d'économie qu'on a en bas à droite, pour les quelques décennies qui viennent, c'est quoi ? C'est un effort massif de reconfiguration des villes, à la fois dans leur empreinte, dans leur emprise spatiale, dans la quantité de gens qui y résident et dans la forme des bâtiments. Donc il va y avoir un chantier absolument colossal, idéalement, un chantier absolument colossal sur la reconfiguration des villes. Donc là-dedans, il y a des tas de métiers. Il y a des métiers sur les astuces techniques, soit pour limiter les déplacements, vous mettez la crèche en bas, les appartements au milieu, pour le tennis en haut, soit pour réfléchir à la bonne manière de les faire vivre en n'ayant pas besoin de faire venir des trucs de milliers de kilomètres parce qu'il y a vraiment de transport aujourd'hui, soit sur la bonne manière de s'y occuper, soit sur la bonne manière de faire sortir des villes des gens qui, à mon avis, n'ont plus rien à y faire dans les années qui viennent. Donc tout ça, on va parler de la matière grise. Vous allez avoir un énorme chantier de transport, parce qu'une voiture par personne, voiture par ménage, plus exactement, qui consomme 6 litres au temps, vous avez vu tout à l'heure, ça ne passera pas. Donc il va falloir se creuser la cervelle pour accélérer la survenue de véhicules qui consomment moins, puis dans un deuxième temps de véhicules qui consomment différemment. Hein. L'électricité, l'air comprimé, je pense que ça sera, mais on a vu plutôt l'électricité, mais non, ça sera surtout dans un deuxième temps. Repenser les systèmes de transport, donc là il y a aussi du boulot. Il va y avoir un énorme chantier sur l'agriculture, ça tombe bien qu'on ait des agronomes ce soir, parce qu'aujourd'hui on a construit un système agricole qui a une dépendance à l'énergie fossile qui est maximale, pas tant sur les intrants, parce qu'il faut du gaz pour faire les engrais azotés, donc ça, ça consomme de l'énergie, mais surtout parce qu'on a tellement spécialisé les territoires et massifié la transformation que le système ne peut survivre qu'avec une dose de transport absolument massive. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près un camion sur trois qui transporte un truc qui se mange. Alors, soit qu'il se mange pour les animaux, soit qu'il se mange pour nous. Mais la dépendance du système d'approvisionnement qu'on va trouver dans nos assiettes, au transport qui consomme du pétrole, est massive. Hein, elle est absolument massive. Ça ne peut pas perdurer dans ce genre d'univers. Donc il y a une reconfiguration, alors l'agriculture c'est monstrueusement capitalistique aussi, mais il y a une reconfiguration du monde agricole à faire qui va aussi être un chantier absolument majeur. Et enfin vous avez un dernier chantier absolument majeur qui est de changer les process industriels. Alors si je prends ça grosse maille, vous avez à la fois un effort d'économie d'énergie massif à faire. Les fours doivent être mieux isolés, les machines plus efficaces, pas tourner quand elles ne servent à rien, avoir des trucs qui sont, etc. Il va falloir concevoir des objets qui sont réparables et non pas remplaçables. Aujourd'hui, votre machine à laver, vous avez un bouton qui est cassé, crac, vous l'achetez. Demain, vous la paierez plus cher, vous la réparerez plus souvent. Donc c'est une économie qui va complètement changer. Comme je le disais tout à l'heure, le pouvoir d'achat va baisser. Ça veut dire quoi qu'il va baisser? Ça veut dire que vous n'aurez pas les moyens d'acheter une nouvelle machine à laver tous les 5 ans. Quand vous en achetez une, elle va durer 50 ans. Au moment où vous l'achetez, vous faites un emprunt. Et après de la réparer tous les 5 ans. Donc il va y avoir des tas de métiers de réingénierie, pour employer un barbarisme, dans la conception des produits industriels. Il va y avoir toujours des fonctions qui vont aller autour de ça, hein, de la vente, etc. Il va y avoir un énorme chantier, alors là c'est, ça ne concerne pas trop les ingénieurs, encore qu'il y en a beaucoup qui sont experts dans cet univers ces dernières décennies, de déconstruction de la pyramide de Ponzi mondiale qu'on a créée avec notre système financier, et ça, j'adorerais que je ne sache pas trop comment on va s'y prendre, à part en tombant un certain nombre de gens un peu brutalement, mais ça va aussi demander un peu de jus de cerveau. Donc j'ai envie de dire, les chantiers qui vont demander du jus de cerveau, il y en a plein. Maintenant, la seule question que je n'ai pas aujourd'hui, enfin à laquelle je n'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est est-ce que tous les gens qui ont envie de faire quelque chose vont devenir suffisamment rapidement, suffisamment nombreux pour que dans un nombre suffisamment important de régions dans le monde, au lieu de se laisser enferrer vers le haut, là, on aille le plus vite possible en bas. Alors là, à titre individuel, il y a quelques actions dont j'ai constaté qu'elles pouvaient avoir soit procurer du confort moral, c'est-à-dire pas mal, soit avoir un effet d'entraînement. Ce qui procure du confort moral, c'est tout simplement de se mettre en accord avec ce qu'on pense. Voilà. Je dirais, je n'étais pas sûr que tout fasse pareil, enfin, au moins vous, ça ne procure pas d'état d'âme. Et la deuxième chose qui peut être utile, c'est d'engueuler les journalistes. Alors ça peut vous paraître étonnant, mais avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec l'effet de levier de la presse sur la décision politique, en fait, un des trucs qui aide le choix, c'est ou bien de faire des associations dont les journalistes parleront, ou bien de les engueuler en direct quand vous pensez qu'il y a un conflit. Ils reçoivent très peu de messages argumentés leur disant « Là, je suis désolé, vous avez mis 10 à la place de 1, là, vous avez fait tel lien de cause à effet qui n'est pas du tout documenté, ou encore vous avez oublié de faire tel lien de cause à effet qui fait que votre conclusion est bizarroïde. » Je vous assure, ils n'en reçoivent pas beaucoup. Alors au début, ils ne comprendront pas ce que vous leur racontez, mais petit à petit, ça a fini par avoir un effet d'entraînement. Moi, je peux vous assurer qu'à titre personnel, à une époque où ils n'avaient jamais entendu parler de moi, il y en a un certain nombre avec qui le dialogue s'est noué. Je pense que ça a eu un effet discernable sur la manière qu'ils avaient de comprendre l'information qu'ils avaient sur eux. Voilà, mais c'est l'heure d'une vie. Alors ça, c'est l'heure d'une vie.
Merci. On prend la question du fond, monsieur.
Jean-Marc Combert, donc, merci pour toute votre présentation sur le carbone, que je trouve vraiment très bonne et très pédagogique. Par contre, après, sur les solutions, j'ai un différent avec le nucléaire, qui est vraiment une énergie marginale dans le monde. n'a jamais été dépassé par l'hydraulique ni la biomasse. Et donc, au niveau des solutions à débattre au niveau démocratique, il y a notamment le scénario Megawatt, qui est déjà en application en Allemagne, il ne s'appelle pas comme ça. Donc, bah, vous pouvez tout chercher, Megawatt.org.
Je connais.
Et puis, pour les, bah, je sais que vous avez débattu avec eux. Et puis, pour les agronomes, il y a Solago qui a fait le scénario After, avec Terre comme la Terre. Voilà, j'arrête là-dessus pour que le débat continue.
Merci pour la publicité. Là, vous en pensez quoi, Jean-Marc, du scénario Megawatt?
Alors, la réponse est déjà là. Si le nucléaire qui est là est une énergie disqualifiée parce que marginale, ça c'est encore plus marginal, donc on n'en parle même plus. On est d'accord? Oui ou non? Ce qui est moins que marginal est marginal, d'accord? C'est une relation d'ordre, la marginalité. Donc ce qui est moins que marginal est marginal.
Excusez-moi.
Non, voilà, donc c'est juste pour. Non, mais. Donc on est d'accord. Donc le, aujourd'hui, l'argument qui est nucléaire c'est marginal, donc je m'en débarrasse, malheureusement, dessert encore plus toutes les énergies renouvelables hors le bois, parce que l'hydroélectricité est apparue avec le nucléaire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le scénario des Gawatt, je ne suis pas capable de discuter parce que je n'ai pas leur calcul, qui ne publie pas, donc je ne sais pas quoi en penser. Dans le manifeste des Gawatt, vous n'avez pas un chiffre. Moi, je sais discuter d'un scénario quand il est documenté quantitativement. Quand on dit juste que la vérité est là, ben, je ne sais pas quoi en penser, donc j'en pense rien. Si, par exemple, vous avez une hypothèse d'entrée dans des gigawatts qui est que la surface habitable par personne reste constante, une conclusion sociologique que vous en tirez, c'est que vous interdisez les divorces. Alors, on peut souhaiter l'interdiction du divorce, moi ça ne me dérange pas. Juste, enfin, ça ne me dérange pas, je veux dire, si la démocratie décide, la démocratie décide. Juste, il faut bien comprendre que ça fait partie des hypothèses d'entrée. Donc, le scénario des Gawatt, c'est un objet technique qui n'a pas de valeur sociale parce qu'il ne contient pas ces hypothèses de mise en œuvre. Or, ce qui a une valeur sociale, c'est les hypothèses de mise en œuvre. Je peux très facilement, demain matin, diviser la quantité de pétrole consommée par les transports en interdisant à une personne sur deux d'avoir une voiture. Aucun problème. Alors, techniquement, aucun problème. La seule question, c'est est-ce que je suis capable de décider ça en démocratie? Donc, pour le scénario de Megawatt, je connais bien une partie des gens de Megawatt, hein, j'ai un bon ami qui fait partie du groupe Megawatt, etc. C'est juste leur scénario, ils n'ont pas documenté techniquement, il n'y a rien à en dire. Dernier point, le nucléaire est une énergie dangereuse, admettons, il est considérablement moins dangereux que ça. Donc utiliser plus de nucléaire pour éviter ça, le signe est 4 mains, d'accord? Et je considère que je ne suis pas un père indigne en ce sens.
Voilà. On va prendre deux dernières questions.
Parce que ce que les Allemands en ce moment, c'est de favoriser
les Allemands. Il y a la gauche, hein, monsieur Kira.
Il veut favoriser les Allemands.
Ah, pardon.
Oui. Je ne sais pas. Je vais peut-être commencer. Oui. Est-ce que je peux revenir sur le graphique
qui est très court, hein,
cette réponse. Parce que vous minimisez les énergies renouvelables appliquées en rose, mais que sur votre graphique, elles sont croissantes. Et je pense qu'il y a des solutions, à titre personnel, par exemple, je ne prends plus l'ex-CLDF, mais à l'ENERCOP. Ça aussi, on peut en parler. Je suis un actionnaire aussi d'un champ éolien, parce qu'il y a aussi l'énergie partagée, par exemple, sur Internet, chercher ça. Et je pense qu'il y a aussi des moyens d'agir, parce que moi, je suis désolé, mais EDF ne comprenait pas sur ma facture, ou la possibilité de faire un contrat, où je retrouve les énergies que je souhaitais. Alors peut-être que c'est très individualiste, mais j'aimerais bien qu'il y ait ce choix-là qui soit fait. Et vous avez le nucléaire, le jaune, il est en train de décroître, le rose, que vous avez mis en haut, il est en train de croître. Donc votre graphique est très bien, comme votre exposé, hein, tout est très bien. En termes de solutions, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi au fait que le nucléaire participe donc à l'énergie électrique. L'énergie électrique, c'est avant tout les ménages, le reste aussi. Et en termes de réduction de gaz à effet de serre, c'est pas en maintenant sur le nucléaire ou en maintenant qu'on va faire des grands progrès à l'évolution parfaitement.
Sans vous embêter, c'est dans les transports. Posez votre question.
Ma question, c'est que ça va permettre la réaction, c'est-à-dire que les énergies sur le gaz à effet de serre sont ailleurs que par le nucléaire. Et le nucléaire ne répond donc pas du tout aux enjeux du réchauffement climatique. Voilà.
Alors, je suis désolé de vous contredire, je vous le répète, 40% d'électricité mondiale est faite au charbon, 25% est faite au gaz. La quasi-totalité de ça est, on va dire, entre le tiers et la moitié de ça, c'est pour faire de l'électricité. Donc quand vous dites que le nucléaire ne répond pas, non, c'est totalement faux. Les Allemands sont à 10 tonnes de CO2 par personne et par an, les Français à 6. Donc je veux bien qu'ils soient plus productifs que nous, etc. Mais les Suédois sont également à 6, avec un PIB par personne significativement, s'il te plaît. Ils ont une consommation de kilowattheure nucléaire par personne qui est la même que celle des Français. La même, hein.
Alors, allez, vous attendez, pour le moment, ma réponse est plus courte que votre question. La deuxième chose, non, c'est pas ça c'est normal, mais si on
vous plaît, vous avez posé deux questions.
Mais, vous savez, moi j'ai aucune objection à ce que vous donnez dans la vie pour faire. Pas trop pareil. Donc, j'en reviens à ce que je dis là. Quand vous faites des calculs d'ordre de grandeur sur la vitesse à laquelle ça doit croître, pour compenser une partie significative de ça, et quand vous regardez la chronique d'investissement qui est nécessaire pour que ce genre de système prenne place, vous vous rendez compte que vous dépassez la possibilité de gérer économiquement le système dans la stabilité. C'est juste ça. Donc, n'ayez pas de calcul économique, ils refusent d'en faire. C'est leur droit. Mais à partir du moment où ils refusent de faire des calculs économiques, je le répète, on ne peut pas considérer que leur scénario est une proposition d'action. On ne peut pas. Parce que dans la vie, les choses se terminent avec de l'économie, c'est-à-dire le temps de travail alloué à ceci plutôt qu'à cela. C'est à ça que ça sert, l'économie. Pas la mauvaise que je vais montrer tout à l'heure. La bonne, c'est juste une affectation de notre temps de travail à ce qu'il y a d'importance. Et si ça part gauche, ça va pas. Parce que malheureusement, les heures ne s'écoulent plus que ça soit. Ensuite, il faut savoir, alors, juste deux ordres de grandeur. L'éolien est une énergie intermittente. Si vous dites, je veux plus de fossiles, je veux plus de nucléaire, à ce moment, l'hydroélectricité ne montera pas tellement au-dessus du niveau actuel en Europe, les cités qui passent ne sont pas très nombreuses. Donc vous vous retrouvez avec un système dans lequel vous avez purement de l'intermittent et fatal, plus du stockage derrière. Les calculs d'ordre de grandeur qu'on peut faire montrent que ce genre de système demande, selon que vous mettez de l'éolien ou du solaire, 5 à 50 fois plus de capital sur la table que du nucléaire pour produire la même quantité d'électricité. 5 à 50 fois plus. Donc, si, là aussi, un argument souvent fait du nucléaire doit être banni parce que c'est trop cher, malheureusement, les alternatives décarbonées le sont beaucoup plus. Toujours un ordre de grandeur, avec de l'éolien, vous avez un coût en surface. Bien sûr, vous faites des calculs, je vous les enverrai. Avec de l'éolien. Pardon ?
Attendez, je vous
propose. Non, démantèlement, pour le moment, il ne coûte pas 10 fois plus cher.
Vous avez posé votre question, Jean-Marc répond, et j'ai d'autres personnes qui attendent derrière. Je voudrais aussi leur donner la parole. On va arrêter dans 5 minutes.
Je reviens.
Je serai dehors après avec Jean-Marc.
Je reviens. La production éolienne. 80 euros le mégawattheure pour sortir un mégawattheure non pilotable. Or, toute la consommation d'électricité demande à être pilotée. Alors, vous n'avez pas des trains qui avancent quand le vent souffle et des aiguilles qui tombent quand le vent souffle. Donc, si vous n'avez plus de l'éolien, vous déstockez. Calcul d'ordre de grandeur, le mégawattheure produit, stocké, restitué, si vous créez des steps de toutes pièces, il n'est plus à 80 euros du mégawattheure. Je calcule ce que vous m'envoyez, il est à 300. Alors, on peut, moi ça ne me dérange pas, encore une fois. Il faut juste savoir ce qu'on achète. Donc, si on est dans la démocratie, donc si vous arrivez à convaincre 50,1% de la population que le mégawattheure à 300 euros, c'est vachement bien, moi j'ai rien à dire. Absolument rien à dire. Par contre, ce que je ne considère pas honnête, c'est de lui dire avec l'éolien, vous allez avoir de l'électricité moins dangereuse que le nucléaire au même prix. Ça, c'est totalement faux. Donc, c'est juste ça. Et quand vous aurez moins d'électricité, parce que vous n'avez pas beaucoup plus de capitaux, surtout en ce moment, et bien en fait, ce que vous aurez aussi, comme je le montrais tout à l'heure, c'est une accélération de la baisse du PIB. Ça ne me dérange pas non plus si c'est un choix démocratique. Vous savez, je m'en fous, puis je sais trouver, je vais au magasin fringue une fois tous les 20 ans. En revanche, je m'en fous. Mais par contre, c'est pas honnête de ne pas le dire à la population. Voilà. Donc il y a deux trucs, moi, que je demande aux entreprises de dire, c'est d'accepter, et j'insiste, d'accepter le fait qu'avec votre plan, il y a une diminution plus importante et plus rapide de la capacité dite économique d'un pays. Encore une fois, si la population le souhaite, j'ai strictement rien à dire, c'est le jeu de la démocratie.
Merci.
Simplement, est-ce qu'on décale pas aussi le problème dans le temps, finalement, parce qu'avec les minerais, ils sont aussi non renouvelables, et quelle échelle de temps ça devient pour trouver d'autres solutions?
Alors, la réponse à la première question, elle est dans ce que j'ai montré, je ne sais pas quoi que c'est, ici. Et ça. Et vraiment, je vous invite, je sais que ce n'est pas bien pour les droits d'auteur, donc je peux vous envoyer ça par mail. Je vous invite à lire ou relire ce truc absolument remarquable qu'avait fait Meadows au début des années 70, donc les limites souveraines. Il y a une réédition qui vient d'être faite, dont j'ai même eu l'honneur d'écrire la préface, mais la réédition, moi je la trouve moins bonne que le truc original dans son jus. Et Meadows, justement, il ne sert pas dessus. Il dit, bon, voilà, en fonction des hypothèses, est-ce que ça sert à tout pour plus tard, parce que, voilà. Donc, la réponse à la première question, c'est comment évolue globalement le système en fonction des hypothèses qu'on prend. C'est exactement ce genre de truc dont il dissert. Et il avait regardé les conditions d'une stabilisation du système, c'est-à-dire à quel niveau maximal est-ce qu'on se met pour que le système se stabilise. Alors la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que ceux qui considèrent aujourd'hui qu'on est déjà allé trop loin et qu'on ne va pas pouvoir éviter une partie du toboggan. Alors du coup, j'ai oublié la deuxième partie de la question qui était. Ah, les minerais. Alors, en première approximation, et je dis bien en première approximation, la disponibilité d'à peu près n'importe quel élément est une disponibilité énergétique. Dit autrement, si je prends un mètre cube de terre à l'extérieur du bâtiment qui vous accueille, vous allez trouver dedans à peu près tous les éléments de la table de Mendeleïev. Mais à des concentrations qui sont tellement faibles que si vous n'avez pas une quantité d'énergie infinie pour aller les chercher, eh bien vous n'y avez pas accès. Donc en première approximation, la quantité d'énergie que vous avez vous donne la disponibilité des matériaux que vous souhaitez obtenir. Il y a des bouillettes d'or, même dans la terre de Genèse, mais il n'y a pas beaucoup. Donc pour l'extraire, il faut énormément d'énergie. Savoir à quel moment est-ce que pour les minerais, on va passer le pic de la disponibilité pour ceci ou cela, là c'est pareil, c'est le même genre de raisonnement que pour le pétrole. Vous essayez d'avoir une évaluation du stock extractible en fonction des conditions technico-économiques, et après, c'est ça qui va vous donner le moment où vous allez en avoir de moins en moins. Qu'est-ce que ça veut dire en avoir de moins en moins? Ça ne veut pas nécessairement dire une catastrophe, encore une fois, ça veut en tout cas dire que le système va devoir s'adapter à ce genre de choses. Ce qui aujourd'hui est très difficile, je le rappelle encore une fois, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas complètement d'arriver dans un état stable où vous avez moins, c'est de gérer la décrue. Parce que comme tout le système a été organisé pour être comme le cycliste stable en avançant, le fait de passer la marche arrière est très compliqué. Hein. Voilà, donc la disponibilité, mais pour répondre à la question, encore une fois, la disponibilité des minerais est une affaire pour l'essentiel d'énergie. Alors, il y a des minerais pour lesquels il y en a tellement accessible avec pas beaucoup d'énergie qu'avant qu'on en manque, il va quand même se passer du temps, typiquement le minerai de fer ou la bauxite. Par contre, vous avez d'autres minerais sur lesquels il n'est pas exclu qu'on soit déjà pas loin du pic, voire post-pic, comme par exemple l'or.
Merci. Dernière question. Je suis désolé. Dernière question.
Oui. Gérard Pierre, je suis vice-président de l'association Second Climat. J'ai donc une première question. Une question très courte. Première question, est-ce que vous pensez que le progrès technologique, la recherche puisse apporter quelque chose finalement au problème qui nous préoccupe ce soir? Je pense bien sûr au développement des nanotechnologies, à toutes les choses qu'on a entendu parler, au développement de la quatrième génération par exemple. Ça c'est donc essentiellement la première question. Deuxièmement, je voudrais vous répondre, monsieur Galao, vous demander ce que vous pensez du scénario négatif, qui est donc le scénario de ce grand climat. Et puis, toute dernière question, qui est vraiment très anecdotique, j'avais travaillé avec Nicolas Mango, et je voudrais savoir, après son aventure, on va dire avec les vers, si vous le voyez encore, et s'il le voit encore très bien. Voilà.
C'était trois questions.
Alors, la réponse à la première question est oui, dans une certaine mesure. Oui, dans une certaine mesure, puisque le progrès technique dans mon affaire, ici, là, il est contenu dans ces deux termes. Hein? Si je sais faire des voitures qui consomment moins, si je sais faire des bâtiments qui consomment moins, si je sais produire des lunettes en consommant moins d'énergie, si je sais faire des trucs qui courent plus longtemps, etc. C'est conclu là-dedans. Alors après, est-ce que n'importe quelle technologie va me permettre de faire ça? La réponse est non. Donc par exemple, les nanotechnologies, on en fait tous les jours quand on gère. C'est que les nanotechnologies, c'est un terme marketing, hein, c'est des trucs qui se passent à l'échelle de la molécule. Enfin, tout se passe à l'échelle de la molécule. Hein. Bon. Oui, il y a des technologies qui vont nous aider, et il y en a d'autres qui ne nous aident pas du tout. Par exemple, si je trouve une manière de multiplier plus rapidement les centrales à charbon, je suis sûr que ça nous aide. Donc, la technologie, elle n'est pas auto-prescriptive de la direction dans laquelle la société va partir. C'est un couteau, et le couteau, vous en faites ce que vous décidez de faire, celui qui en mange. Donc, vous pouvez un truc qui vous gêne, tu le connais. La deuxième question sur le scénario négatif, je confesse à ma grande honte d'avoir jamais eu le temps de lire, donc il faudrait que je fasse, enfin, de peine à Pierre Bachelet, mais je n'ai pas encore le temps de lire. La troisième, mais bon, il y a des sujets sur lesquels je suis sûr qu'on se rejoint, à commencer par le point de départ, qui est que la question est d'économiser du fossile au meilleur coût possible, en jouant avec toutes les techniques pour lesquelles on considère qu'elles sont moralement acceptables. D'accord ? Et à la différence des gens en haut, moi je vais nucléaire les autres. Mais c'est une affaire de balance intéressante. La troisième question qui est-ce que je vois toujours Nicolas Hulot ? Alors, il faut savoir que depuis le temps de la Fondation, il y a eu deux époques. Il y a eu une époque où je l'ai beaucoup vu, jusqu'à la sortie du pacte écologique, et après il y a eu une époque où je l'ai très peu vu, mais comme tout le monde, qui est l'époque de son film, l'époque où il a un peu flotté, où il s'est demandé ce qu'il allait faire, et la fin du flottement a été son aventure politique, qui à mon sens était une erreur, je peux le dire parce que je l'ai dit. Je pense que c'était une erreur, et ça fait écho aux questions qui m'ont été posées tout à l'heure, parce que je pense que quand on est devenu une figure médiatique centrée sur un thème, on est beaucoup plus efficace dans le monde associatif qu'on l'est dans le monde politique. Quand on va se mettre dans le monde politique, il faut y aller par réfraction avec une vision gaullienne, sinon ça ne marche pas. Quand on est sur un programme de rupture, non mais quand on est sur un programme de rupture, il faut y aller par réfraction avec une vision gaullienne, sinon ça n'a pas de sens. Et comme ce n'était pas du tout sa capacité, à mon avis, il n'avait rien à faire dans ce monde-là, et il était beaucoup plus efficace de l'extérieur à faire ce qu'il avait toujours fait avec Rio, c'est-à-dire porter un message qui avait, dans le cadre de Kiffin de l'avance. Voilà. Je le vois toujours avec plaisir, mais je pense que aujourd'hui, il s'est mis sur un positionnement plus compliqué que celui qu'il avait avant son adaptation chez GDR.
Merci beaucoup, Jean-Marc.